Salut mes petits poissons et bienvenue dans The DC Alternative, le film où on parle de tous les films DC. J'ai pas prévu de phrase. même ceux avec des poissons qui parlent. Je suis Sofiane, avec moi comme toujours Aquamax.
Salut, salut.
Et Jason Zozoa.
Oh putain, t'allais le chercher loin, c'est beau. J'approuve.
Voilà, cette semaine, on va vous parler d'Aquaman, réalisé par James Wan en 2018. Nous sommes sur Zoom, donc si la qualité audio n'est pas top, voilà, c'est le confinement qui oblige, hein, donc on est un peu obligé de faire avec les moyens du bord. Qu'est-ce que vous connaissiez d'Aquaman avant tout ça ?
Pas grand-chose pour ma part. Non, ouais, honnêtement, non. Ouais. Moi, c'est un héros, on a toujours dit que c'était un peu le mec dont on se foutait de la gueule globalement depuis les années 90, j'ai l'impression. Donc c'est un héros qu'on a souvent décrié parce qu'il parle aux poissons et qu'il ressemble à rien. Et donc j'en attendais rien du tout, surtout après comment il avait été exploité dans Justice League et dans l'espèce de petite vignette dans BVS. Et je réserverai mon avis sur la suite, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose du personnage.
Moi, je l'ai découvert avec les comics, avec les New 52 de Geoff Jones, où il y avait des nouvelles origines du personnage. Mais à part ça, ouais, c'est jamais un perso qui m'a trop attiré et qui a toujours été un peu obscur.
Moi, c'était genre vraiment à chaque fois que je regardais des trucs, tu sais, les South Park, les Family Guy et tous ces trucs-là, il y avait toujours des blagues,
théories, ouais.
Des blagues sur Aquaman, quoi. C'était toujours. Mais sinon, c'est vrai que je l'ai plus connu dans quoi, Justice League Unlimited, hein, si je me rappelle bien. Il était dedans, où il faisait la guerre un peu. C'était pas contre les Amazones ou ce genre de trucs, je sais plus exactement. C'était aussi l'époque où le personnage il avait un crochet à la main. Ils ont essayé de le rendre cool pendant une époque où il avait un crochet au lieu d'avoir une main. Tu vois.
Genre d'en faire un pirate, quoi.
Ouais, voilà. Bon, c'est vrai que c'était pas. Et j'en avais entendu parler parce que dans la série Entourage, il y avait le film Aquaman réalisé par James Cameron.
Et maintenant que t'en parles, c'est là où j'ai vraiment connu le personnage.
Voilà. Et c'était un peu pour ça aussi. Où ils avaient fait tout le délire. James Cameron, il a fait pas mal de films dans l'eau, c'est un peu son truc. Donc pour réaliser Aquaman, je trouve que c'était très bien trouvé comme idée, le fait que ce soit James Cameron. Et le film sort et ça devient le plus gros carton au box-office. Donc ils avaient anticipé aussi les gros cartons des films de super-héros. Et moi j'avais rigolé quand j'avais vu le fait que ça devienne le plus gros carton au box-office. J'avais fait, mais c'est ça, genre un film comme Aquaman qui serait le plus gros carton au box-office. Et avec le recul, je mange mes mots un peu. Parce que...
C'est Avengers, ouais.
Voilà, quoi.
Mais c'est vrai que moi, qui ai été un fan d'Entourage aux alentours des années 2010, ça a été... C'est au croisement de la saison 2 et de la saison 3, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est une espèce de dénouement Aquaman. C'est-à-dire que tu finis une saison et Vincent Chase reçoit le rôle et tu commences la saison d'après où le film est sorti. Donc c'est un peu ouais, voilà. ça qui est assez fascinant. Et c'est vrai qu'il te montre une image du film. Je crois que c'est une espèce de trailer ou de teaser, je crois.
C'est un moment où ils font sur un ponton pendant que les gens ils courent de l'autre côté. Il y a une énorme vague et on le voit juste plonger dans l'eau. Et je crois que dans l'explication dans Entourage, c'est qu'il y avait une coupure de courant à ce moment-là et donc on ne peut pas voir le reste du film. Et donc le seul truc qu'on voit du film, c'est lui qui court sur le ponton et qui plonge comme ça.
Oui, ça, il y a un truc comme ça, je crois, t'as raison. Ouais.
Voilà.
Et c'est vrai que ça... Enfin, pour le coup, c'était tellement stylé dans la série, quoi. Je veux dire, Cameron qui appelle le comédien, qui lui file le rôle d'Aquaman, Aquaman, le gros blockbuster que tout le monde a envie de voir, quoi. Ça faisait rêver, mais en revoyant l'Aquaman de James Wan, j'avais totalement oublié toute cette partie là, d'Entourage que j'avais consommée 10 ans avant, et qui pourtant avait marqué, parce que t'as jamais de costume, je pense que c'est le costume qui faisait tout aussi, le fait que... C'était très sobre.
Il y avait un truc autour du costume, comme quoi il voulait pas le porter ou un truc comme ça, mais je crois pas qu'on le voit une seule fois.
Non, c'est
costume.
Ça, voilà, c'était ouais. Un peu la blague, genre on en entend parler, mais on le voit jamais. Ouais.
Et je pense que la principale raison pour laquelle il n'y a pas eu de film Aquaman, c'était une question d'effets spéciaux. C'était impossible à faire avant, en fait, ce film. C'est impossible. T'as vu le nombre d'effets spéciaux qu'il y a dans ce film-là, quoi?
J'ai regardé tous les bonus, ils en parlent. C'est assez intéressant. Mais c'est sûr qu'à moins de faire un espèce de film entièrement en live action sous l'eau, ce qui aurait été très étrange et quasiment infaisable, je vois pas comment c'est possible. Donc c'est sûr que c'est. Il est arrivé une période où ils ont réussi à faire quelque chose de crédible avec ce qu'ils avaient sous la main.
C'était le bon moment.
Ouais, et c'est pas mal. Mais ce qui est assez drôle aussi, je reviens rapidement sur Aquaman, moi j'avoue que l'image qui me marque, c'est l'image dans Superfan, je pense, où il veut sauter sur un perso, enfin, où tout le monde lui fait croire qu'ils ont une espèce de voiture invisible. Et donc
Ah
il
oui.
est dessus, et c'est le seul connard qui peut pas voler. Donc il tombe et tout le monde se barre et il le laisse comme une merde. Et ça m'a toujours fait penser à ça, DC et Aquaman, avant que je vois le film, c'était un peu le côté, genre, c'est le héros de merde qu'on laisse derrière nous parce qu'on s'en fout, quoi.
Ils ont voulu faire le projet depuis 2004, hein, quand même. Et ça aurait été coproduit par la boîte de prod de Leonardo DiCaprio. Donc sûrement peut-être DiCaprio en Aquaman.
Bah, et c'est drôle parce que Vincent Chase dans Entourage, il est grandement inspiré de DiCaprio. Il a un grand rôle avec Cameron, après il joue Gatsby, enfin il y a vraiment une espèce de
Il est
série.
surtout inspiré de Wahlberg, hein, quand même.
Non, je veux dire, il est inspiré de Wahlberg sur le, je veux dire, sa vie, mais les rôles qu'il choisit, ça ressemble beaucoup au rôle de DiCaprio. Donc c'est ça qui est assez drôle parce que, toi, il y a Titanic, Aquaman, il y a une similitude, et après il va jouer Gatsby dans la série que DiCaprio va jouer après. Donc il y a vraiment un espèce de miroir rigolo. C'est
On
marrant.
va attendre que DiCaprio fasse un film sur Pablo Escobar.
Ouais, une merde filmée. Enfin, ouais,
Et ouais, en même temps, quand on réfléchit au niveau comics, Aquaman est blond aux yeux bleus. Il ressemble beaucoup plus à DiCaprio qu'à Jason Momoa,
oui, c'est
techniquement,
clair.
dans les comics, quoi.
Bah ça, de toute façon, c'est le truc, hein. Jason Momoa, c'est un casting assez audacieux parce que il ressemble absolument pas à l'idée qu'on pouvait se faire du rôle à la base. Ouais.
Donc plus rien jusqu'à la sortie de Man of Steel et le lancement du DCEU. En 2015, il y a James Wan qui rejoint le projet avec son scénariste habituel. Qu'est-ce que vous pensez de James Wan, de sa carrière avant?
Ouais,
Il a fait en gros les Conjuring.
bah, c'est
Il
un
Saw
mec qui a...
surtout.
Ouais,
Il
c'est un
a
mec
fait
qui a débuté
Saw.
très tôt, ouais.
Ouais,
Avec ça,
voilà.
ouais. Bah, pour le coup, je trouve que c'est un réal dont on parle pas trop, mais qui a une énorme influence finalement à Hollywood. Voilà, il a vraiment réussi à créer un univers partagé bah, qui plaît à beaucoup de monde et qui est assez peu décrié, à la fois peu nommé, cet univers de Conjuring, parce qu'il y a les Conjuring, il y a les Annabelle, il y a la Nonne, enfin, il y a tout un espèce de délire.
Insidious aussi, ouais.
Deus, voilà, il y a quand même enfin, au final, il a vraiment créé un cinématique universe dans son coin, mais qui a l'air de plaire à ceux qui le regardent. Moi, j'avoue que je suis pas un grand client des films d'horreur. Il a
C'est
réalisé
surtout
un.
ceux-là, hein, je les trouve super moyens, quoi. Encore Saw, je veux bien, ouais, ça sortait du lot, Saw, là, le
Le
premier.
premier, oui.
Mais les Conjuring, c'est quand même assez, c'est très moyen-moyen, hein. Il n'y a pas
Ah, moi, je
de.
trouve qu'il est, je le trouve plutôt habile, moi, mais.
À choisir dans tous les films d'horreur qu'il a fait, je trouve que les Conjuring se tiennent vachement bien au niveau des derniers trucs récents en film d'horreur, hein.
Bah, quand tu
Surtout,
vois
surtout le premier.
ouais, ça, quand tu vois lui qui fait ses films et les licences qu'il a dégagées, ses films restent des films bien réalisés avec, tu vois, des espèces d'effets qui fonctionnent. Enfin, il a quand même c'est un mec qui est habile, quoi. Et pareil, son Fast and Furious, c'est souvent cité comme le meilleur avec le 5. Moi, je préfère le 6 parce que un jour on en parlera avec Sofiane. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mec qui quand même arrive à être un peu caméléon, à se fondre dans différents genres, à prendre la mesure des sagas qu'il adapte, à faire des gros budgets, des petits budgets, à être malin, à savoir utiliser des effets spéciaux. Enfin, c'est un gars assez polyvalent finalement, qui arrive à créer des films assez généreux. Et moi, bah, des réalisateurs généreux en 2010, il n'y en a pas tant que ça. Donc là-dessus, je lui tiens rigueur.
Lui, il a fait le 6, hein, c'est ça?
Il a fait le 7, celui
Le
avec les voitures
7.
qui sautent d'une tour à une autre.
Ok. Moi, je les aime bien tous, hein, ceux-là. Mais c'est vrai que je préfère quand même le 5 parce que c'est le premier qui a ramené le côté complètement cinglé dans la saga. Mais je trouve qu'il a fait un très bon boulot dans ce qu'il a fait dans Fast and Furious. Il a très bien continué le truc tout en augmentant les.
Mais les potards à 11.
Ouais, voilà, exactement. Voilà.
Et en plus, il a dû faire l'épisode d'adieu à Christopher. Comment il s'appelle? Excusez-moi.
Christopher Walken, en effet, ouais,
Non,
quand il est parti
Paul
de la
Walker.
saga.
Paul
Paul
Walker.
Walker, voilà. Moi et les noms, toujours la même chose. Il a dû faire l'épisode d'adieu et c'était pas évident. Et je trouve que émotionnellement, ça fonctionne, en plus d'avoir de la démesure totalement barrée dans les cascades et les délires, quoi.
Donc Jason Momoa avait apparemment été le premier choix parce que j'ai rien vu de spécial au niveau des
Non,
castings et des
alors
trucs
pour le
comme
coup,
ça.
je peux en parler un peu. Il y a tout un bonus là-dessus sur le Blu-ray qui parle vraiment de Jason Momoa en tant qu'Aquaman et tout le rapport que ça a été et pourquoi lui, est-ce que ça a impliqué sur qui il était, comment ça a été annoncé, tout ça. Enfin, il y a vraiment 20 minutes de documentaire là-dessus. Et bah, c'est Snyder hein, qui voulait un Aquaman totalement différent, un Aquaman rocker, biker un peu, enfin biker des mers.
Moi, il me fait penser à Lobo, ce Aquaman.
Un petit peu, ouais. Mais pour le moderniser, c'était quand même une bonne idée.
C'est,
hein.
C'est une sorte de Lobo qui boit, qui a les cheveux longs, qui est rocker.
Ouais, ça ressemble à ça, ouais, exactement. Et donc, bah, ça a été le choix officiel, direct. Il n'y a pas eu d'autres idées, en fait. Snyder, il a porté son dévolu sur Momoa. Et je pense que James Wan en a hérité, sans trop avoir choisi quoi que ce soit.
Entre nous, on peut le dire. C'est le meilleur choix qu'ils aient fait au niveau du DCU de changer complètement Aquaman, en fait, d'en faire vraiment quelque chose différent, mais qui en même temps reste très fidèle à ce que Aquaman représente et qui a plus de sens que le Arthur des comics au final, je trouve. Ils ont réussi à trouver avec ce mec, avec ses origines, avec ce qu'il représente, avec en prenant l'acteur qui joue Jango Fett aussi pour jouer son père. Je trouve qu'ils sont plus connectés avec l'océan que si c'était juste un mec qui ressemble à Arthur au roi Arthur, quoi, tu vois.
Bah, c'est ça la grande force de ce casting, c'est que déjà il y a deux aspects méta qui sont assez intéressants. Le premier, c'est que Aquaman, donc c'est un personnage qui est tiraillé entre ayant un père humain et une mère Atlante, donc il est tiraillé entre deux mondes. Et pour le coup, Jason Momoa, c'est un mec qui est né en, je crois, dans l'Iowa, un état vraiment du centre des États-Unis, et qui à la fois est à moitié hawaïen, et donc qui a un peu cette espèce de dilemme des gens qui ont deux cultures, qui est jamais. Il a l'impression de ne pas être hawaïen et de ne pas être de quelqu'un de l'Iowa, enfin, tu sais, d'appartenir à aucun des deux mondes. Donc il a ça en lui, je trouve ça intéressant, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a des racines Samoa, donc tous les peuples du Pacifique, un peu, et qui est vraiment très proche de cette idée-là. Et
il l'utilise beaucoup dans le film. On dirait qu'il fait des AK par moment régulièrement dans le film.
Il en fait, ouais, quasiment.
Ouais, il en fait vers la fin aussi. Il le fait limite, le AK, quand il est devant tout le peuple et tout.
Pour célébrer, ouais.
Ouais, mmh. Voilà. Donc, je trouve que c'est bien qu'ils aient mis. Parce que sinon, Aquaman, entre nous, voilà, quoi. S'il avait été joué par Matt Damon, qu'est-ce qu'on en aurait eu à foutre
Ou Patrick Wilson, même. Hein. Ouais,
exactement. Patrick Wilson aurait pu très bien jouer Aquaman.
Bah, en fait, il représente le Aquaman du comics.
C'est plus ça, ouais.
Le côté là... blond, un peu à rien, avec sa race supérieure, pour le prix de Kadek, quoi.
Et ça nous permet de voir un truc qu'on n'a pas déjà vu. Sinon, ça aurait été Thor, au final.
Mmh. Exactement.
Au final, c'était Thor sous l'eau. Et il fallait quand même un truc pour les différencier. Et moi, au début, j'étais là, j'ai levé les yeux vers le ciel. Quand ils ont dit Khal Drogo en Aquaman, j'ai fait « Ok, ils veulent faire le gros truc badass, le cool, le mec super cool, voilà. » Et au final, ils ont quand même réussi à trouver... Il est un peu pathétique par moment, ce mec cool.
Oui. C'est un beauf, quoi.
Enfin, voilà, c'est un lourdingue. Et ils en ont pas fait que juste le mec qui est super cool au ralenti avec le riff de guitare dès qu'il fait un truc.
Ils ont fait un rocker.
Ils le font quand même beaucoup par moment, mais je trouve que ça va. Ils ont quand même trouvé tout ça. Ouais, d'ailleurs, vas-y.
Non, parce qu'il y a une symbiose vraiment entre la manière dont lui vit le personnage et dont il l'interprète à l'image. Parce que tu vois, son annonce au Comic-Con, quand il débarque, il dit Yeah, I'm fucking Aquaman. Tu vois, genre, I'm gonna be the fucking guy. Enfin, il est hyper.
Il fuck Marvel aussi, il avait dit.
Voilà, il est hyper ordurier. Enfin, il a un côté où il incarne vraiment ce que son personnage va être, qui est un mec qui est jouissif, à la fois un peu beauf et vulgaire. Et ça fonctionne, quoi. Enfin, pour le coup, il y a un côté entier qui me plaît beaucoup, moi, en fait.
Mais c'est clair, il a apporté son authenticité et son côté un peu roots, et en fait, il l'a carrément transmis dans le personnage, quoi.
Ouais. Il a demandé à ce que Temuera Morrison, donc l'acteur qui joue son père, c'est lui qui a demandé à ce qu'il soit cast dans le film, parce que c'était son idole, en fait.
Ouais, parce que c'est un acteur néo-zélandais qui a joué dans le film culte qui s'appelle... L'âme des guerriers.
Oui, c'est ça.
Ça, hein, ouais, l'âme des guerriers, qui est un acteur d'origine aborigène néo-zélandaise.
Qui est dans Mandalorian en ce moment.
Exactement.
Ah oui, c'est vrai, il joue le père de Boba Fett, en effet.
Non, il joue Boba Fett.
Hein.
Bah, c'est le clone, donc.
Oui, en effet.
Voilà, il joue Boba Fett. Désolé pour les spoilers pour les gens.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est pas cool, désolé.
Ouais, moi j'ai pas vu Mandalorian encore, donc je me suis fait spoiler, mais vu que je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est pas très grave. J'oublierai d'ici là. Mais en tout cas, voilà, et c'est un acteur, c'est pareil, je trouve que ça perpétue cette espèce de côté très sincère du projet où c'est un acteur qui avait envie de. Que ce rôle-là du père soit quelqu'un qui soit ancré dans cette culture Samoa, c'est pas rien, quoi. Et par exemple, un petit détail, tu vois, qui est important, mais pour l'anniversaire de Jason Momoa sur le plateau, ils lui ont fait une espèce de blague, ils lui ont dit « Ah, on a besoin de toi sur le parking » et tout, il est sorti, et là, t'avais une espèce de troupe qui lui ont fait un AK, quoi, donc il y a des Samoa qui lui ont fait un vrai AK, et il y avait son fils dans le AK, Et tu sens quand il vit le truc, parce que le documentaire est hyper intéressant, pour le coup, il y a vraiment un côté très intimiste dans le bonus du Blu-ray, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres Blu-ray d'ici.
Nous, en France, on joue de l'accordéon, tu vois, c'est un peu moins cool quand même.
Mais c'est clair. Non, mais en tout cas, ce AK, tu sens que le mec, il est touché au premier degré par le fait que on rend honneur à cette culture-là, que son fils, bah, on lui transmet une partie de cette culture, qui est quelque chose de très important pour les gens qui ont une partie de cette culture en eux, parce que c'est un peuple qui est assez minoritaire sur Terre, mais qui à la fois a une culture très, je veux dire, marquée. Et je pense qu'il le porte bien dans ce rôle, et c'était intéressant de jouer justement sur ce côté lien avec l'océan pour Aquaman, plutôt que de jouer sur le côté c'est un nazi de la mer.
Momoa, il a fait des pranks à tout le monde sur le plateau. Faut pas s'étonner, hein, c'est Jason Momoa. Sauf à Nicole Kidman, parce qu'il faut pas
On respecte
déconner.
Nicole.
Il avait peur de Nicole. À la musique, on a Rupert Gregson Williams, qui a aussi fait la musique de Wonder Woman. Et tu vas être content, Zoltan, de plein de films d'Adam Sandler. Il en a fait vraiment beaucoup. Genre vraiment beaucoup de films d'Adam Sandler.
Alors ça dépend lesquels, parce qu'Adam Sandler, je suis pas non plus le plus gros défenseur de ce gars-là, mais il a ma sympathie, il n'a pas mon rejet, c'est déjà ça.
Mais quand même, il a enchaîné Wonder Woman et Aquaman, hein, le gars.
Mais Wonder Woman, ce qui est triste, c'est qu'on se souvient surtout de la musique de Junkie XL.
Ouais, c'est ça, carrément. Lui, il a fait une version orchestrale de la. C'est tout ce qu'il a fait. Voilà. Ouais. Sauf que cette fois, il a mis des violons, c'est tout, c'est la différence. On a un budget de 200 millions.
Ouais, c'était ce qu'il fallait, j'ai envie de dire.
Et au box, fallait l'oser quand même, hein.
Ouais, fallait l'oser. C'est vrai que quand
Ouais.
tu vois, enfin, quand tu te dis déjà le délire de faire. Moi, honnêtement, je vais le dire tout de suite parce qu'à un moment, il faut que je lâche la bombe. Mais moi, j'adore ce film, en fait. Et j'ai adoré ce film le jour où j'ai vu, enfin, quand je l'ai découvert au cinéma et que j'ai vu Dolph Lundgren sous l'eau, monter un hippocampe avec les cheveux qui voguaient avec les courants marins. Et là, je me dis, bah, c'est un film pour moi, en fait. Enfin, je veux dire, qui a pu dépenser de l'argent pour visualiser cette image, quoi. Alors, Dolph Lundgren qui est sur un putain d'hippocampe avec ses cheveux qui volent à l'eau, c'est
Ses cheveux
génial.
rouges, ses cheveux
Les
rouges.
cheveux rouges qui volent à l'eau, enfin, je veux dire,
Il y a
fallait dire
des
200 millions de dollars pour ça, quoi.
hommes crabes aussi qui gueulent.
Il y a des hommes crabes qui gueulent, mais ils ont pas la gueule de Dolph Lundgren. Tout de suite, beaucoup moins bien.
Au box-office, ça a fait 1 milliard 100 millions.
C'est royal.
Ouais. Et ça a été un gros succès en Chine, apparemment. En 7 jours, ça avait déjà battu tous les Marvel.
Ouais, mais c'est mérité, hein, parce que les Chinois, ils ont ce délire un peu. Enfin, ils aiment bien en prendre plein la gueule, quoi. C'est un film
Ouais.
que. Ils s'en foutent de la cohérence scénaristique ou ils veulent juste en prendre plein la tronche.
Ouais, je suis sûr qu'Avatar a dû bien marcher là-bas, par exemple. Tu
Non, parce qu'ils n'avaient pas leur parc de salles développé à l'époque.
Ah oui, à l'époque, c'était pas
Ah.
encore. Oui, en
Eh
effet.
oui, non. Le boom de la Chine, c'est 2014, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a peu de temps, finalement.
Zoltan, t'as rien de spécial à dire sur les bonus avant qu'on passe au film?
Si, écoutez, c'est les meilleurs bonus donc des Blu-ray d'ici. Il y a un documentaire sur Jason Momoa qui est très intéressant. Il y a un super making-of qui est un vrai making-of, vraiment, mais très, très. Je veux dire, pas un making-of de promo, quoi. Un vrai making-of de gens qui t'expliquent comment ils ont fait le film, comment ça a été le bordel, comment ça a été une espèce d'aventure totalement chelou, mais qu'ils ont arrivé à mener à terme. Il y a tout un making-of aussi sur la création de l'univers, qui est assez riche et qui est très intéressant parce qu'on voit que James Wan, c'est un mec qui a vraiment une vision, mais qui est à la fois très à l'écoute de ce qu'on lui propose et qui, pour le coup, est un vrai mec qui arrive à porter un univers. Donc voilà, globalement, je recommande le Blu-ray. Si vous avez un Blu-ray à prendre chez DC, c'est celui-là. C'est celui qui va vous apporter veux dire, quelque chose de plus honnête et sincère sur la création du film, notamment ce que j'avais partagé sur Twitter il y a peu, une séquence de ce qui est bien, c'est qu'il compare les interviews des acteurs au moment un peu avant le tournage, ou en tout cas pendant la préparation du film et après le tournage. Et donc, comment il s'appelle le mec qui joue le demi-frère, justement?
Patrick
Patrick
Wilson.
Wilson,
Patrick Wilson, il y a un moment où il dit genre, ouais, on va faire un truc avec des effets spéciaux, ça va être énorme, on va être harnaché pour donner l'impression qu'on nage et tout. Et il est en mode ultra confiant, tu vois. Et là, d'un coup, t'as une coupe. Et il y a une interview de lui 6 mois plus tard, et il y a le mec qui a interviewé qui lui dit: Alors, il y a 6 mois, vous nous avez dit que vous aviez vraiment hâte d'être harnaché pour faire ces séquences. Et là, t'as Patrick Wilson qui éclate de rire en disant: J'ai vraiment dit ça? Quel naïf et idiot j'étais. Le mec qu'on a chié pendant 6 mois à être harnaché comme un débile pour faire croire qu'il nageait.
Ouais, parce que voilà, pour expliquer comment ils ont fait ça, ils ont pas mis les gens dans l'eau, hein, comme on pourrait penser. Allez, on met les gens dans l'eau et vous faites semblant de parler, et hop, c'est parti. Et on respire. Apparemment, c'est Kate Winslet qui a battu le record du monde de plongée. Non, le record de plongée à l'écran
Pour Avatar.
pour Avatar, apparemment.
Ouais, Ouais, mais d'ailleurs, j'avais été surpris parce que Margot Robbie, pour Suicide Squad, pour la petite séquence qu'elle avait avec Batman, elle avait tenu plus de 5 minutes. Et Kate
Ah oui.
Winslet, là, elle a fait 8 minutes ou un truc comme ça. Enfin, c'est les gens, ils étaient
Impressionnant.
super
Et
forts.
je crois que c'est Daniel Craig qui avait fait pas mal dans Skyfall aussi, quand il est
Ah, c'est
sous
possible.
l'eau.
Il est dans la glace, là.
Ouais,
Ouais.
ouais, ouais. Je
Dans
crois
le
qu'il est.
commentaire audio, ils n'en parlent pas plus que ça, mais c'est possible.
Ouais.
Mais en tout cas, après, James Cameron, il leur donne des espèces de stéroïdes. Il a une espèce de potion magique pour développer les poumons de ses acteurs. Un truc un peu obscur, mais il est capable de booster leur capacité, en tout cas. Et Ed Harris, récemment, je crois qu'il y a eu un délire en disant, mais j'ai pas eu ça sur Abyss, moi. J'ai fait noyer mes enfants. Les enfants et de James, t'avais pas cette
Moi,
technologie.
je signerai jamais pour un film comme ça, tu vois,
Mais
parce que mourir noyé ou étouffé, c'est genre non. Alors là, non, non, ça
bah, tu
m'intéresse pas, quoi.
m'étonnes. Alors, pour le coup, Aquaman, le délire, c'est donc la technologie qu'ils ont utilisée, c'est les comédiens sont portés par un espèce d'anneau qui est attaché autour de leur taille. Et qui...
Inventé par Matrix,
Ah
inventé
ouais, d'accord.
Matrix Revolutions quand ils se battent dans le ciel.
Ah bah c'est fort probable que ça ressemble à ça, en effet. C'est vrai que
Ouais,
ça
c'est
ressemble.
ça.
Donc ils sont donc harnachés. Ça crée des espèces d'ondulations de haut en bas pour simuler un peu le fait de nager. Et tous leurs cheveux, par contre, sont plaqués, vraiment genre plaqués. Et ils ont des capteurs sur les cheveux. Et donc tous les cheveux que vous voyez dans le film sous l'eau sont totalement en numérique. Voilà, c'est le petit détail rigolo.
Bon, ça se voit, hein.
Oui, mais je veux dire, ça se voit parce que ça paraît évident, mais à la fois, je trouve ça plutôt bien fait. Je veux dire, ça, c'est pas comme la moustache relevée dans Henry Cavill, ça ne fait pas genre un cannibale et bizarre, ça passe, quoi.
Ouais, le seul petit détail qui m'a un peu saoulé au bout d'un moment, c'est l'effet qu'il y a sur la voix quand ils sont dans l'eau.
Oui.
Je sais pas si tu vois le fait qu'ils parlent un peu avec une voix un peu distordue parce
Comme s'il
que
y avait
c'est.
un peu un écho.
Ouais, voilà. Et j'ai trouvé ça relou au bout d'un moment, en fait. Mais sinon, au niveau des effets sous l'eau, ça se voit que c'est là que l'argent est allé. Tu vois, ça se voit vraiment que c'est là que l'argent est allé. Par contre, l'argent n'est pas allé dans le lever de soleil quand le père il est au bout de son ponton et qu'il regarde le lever de soleil. Là, l'argent il n'est pas allé là, tu vois.
Non, ce
Ça,
qui est
c'est
dommage,
terrible,
hein,
hein.
parce qu'ils
C'est
avaient
terrible.
vraiment construit, ils ont construit ce décor. Il faut savoir que tout le tournage a été fait en Australie et l'histoire se passe sur la côte est américaine. Donc ils ont dû et en fait tous les décors comme le bar dans lequel ils se bourrent la gueule, qui est au bord de l'eau, ou le phare, ils l'ont recréé de toutes pièces. Ils l'ont construit vraiment. Et l'endroit, quand tu vois le making-of, il est magnifique. Mais par contre, le coucher de soleil, ils ont fait un vieux truc dégueulasse sur fond vert. Je sais pas trop pourquoi.
Ah ouais. Bon, on passe au film.
Ouais, il faut que j'aille pisser avant.
Ok. Ça, je vais pas le couper, hein, je vais le laisser.
Mes auditeurs, régalez-vous.
My father was my housekeeper. My mother was a queen. They were never meant to meet. But their love saved the world. They made me what I am. A son of the land, a king of the seas.
Nicole Kidman s'échoue chez Jango Fett. Et là, on a de la de-aging technology. Mais d'abord, je voulais demander à Zoltan, tu me disais que ta compagne, dès le début du film, elle n'a pas du tout supporté parce que c'était trop moche, c'est ça?
Bah, elle a eu la première réaction de dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait à sa gueule, Nicole Kidman? Qu'elle était en train d'engueuler Nicole Kidman, en fait. Et après, c'est devenu genre, ah non, mais attends, c'est pas elle qui a fait ça, ils lui ont fait quelque chose. Ouais, bah oui, forcément. Le de-aging, il y a des gens, ils sont très susceptibles à ce côté Uncanny Valley. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Enfin, ça ne me dérange pas.
Bah,
C'est bien fait sur Kidman, mais pas forcément sur lui.
en plus, ouais, je suis d'accord.
Le pire, ça
Ouais.
reste quand même sur Willem Dafoe.
Ah non, le pire, c'est sur le père. Pour moi, le pire,
Ah
c'est
ouais?
sur le père.
Il y a du
Ouais, je
de-aging sur Willem Dafoe parce que moi j'avais l'impression qu'il avait exactement la même tête.
comprends. Je suis un peu d'accord.
J'avais pas l'impression qu'il avait vieilli, tu sais, qu'il a le même, qu'il a toujours le même âge, quoi. D'ailleurs, ils vivent combien de temps les gens
Bon,
d'Atlantis?
ils ont l'air de pouvoir vivre assez vieux.
Ouais,
Carrément, ouais.
On reste dans le flou, mais ils ont l'air d'avoir une petite durée de vie. Non, mais Nicole Kidman, moi par contre, je suis assez outré, je vous avoue, par toutes les réactions que je vois et que j'entends à chaque fois qu'on parle de Nicole Kidman dans ce film et dans les films qu'elle a sortis récemment, où les gens, enfin, ont une
Il l'aime
espèce
plus.
non, mais de tendance à lui cracher la tronche parce qu'elle s'est
Ouais, c'est vrai ça.
offert la gueule. Et moi, j'ai envie de dire, les gars, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Enfin, si elle a envie de se botoxer la tronche, elle le fait et arrêtez d'être là à critiquer que ça, quoi. Ah, bon, voilà, c'est un petit détail, mais je trouve qu'on est hyper vénère sur les actrices qui sont
J'avais
en Oscar.
pas, j'avais pas, parce que j'avais pas calculé.
Ah,
En
putain.
face, c'est plus le système contre lequel on devrait être vénère plutôt que contre les actrices qui le font.
Exactement, oui.
Enfin,
En
c'est
plus,
clair.
si elle le fait, je veux dire, Nicole Kidman, ça va, elle est grande et vaccinée. Si elle a envie de se mettre quoi, enfin, ce qu'elle veut dans le visage, le fait avec, je veux dire, avec connaissance de cause, quoi. Donc, et je trouve qu'on est sévère avec les gens qui font ça, parce que je suis d'accord que les causes sont plus critiquables que les effets, en fait. Et c'est assez dommage. Mais bon, voilà. Mais je trouve que le de-aging passe. Moi, ça me, j'y
Bah,
crois, ça va.
Nicole, ça va, ouais.
Non,
Ouais,
sur Nicole, ça va.
Ouais.
Hein.
Mais lui, c'est pas trop ça, quoi.
Non, bah lui, c'est un peu genre poupée de fond, bah, poupée de cire, quoi. C'est genre
Ouais.
côté ultra lisse. Ouais.
Elle mange un poisson.
Ah oui, putain, c'est malaisant, ce truc.
J'ai remarqué un truc dans le film. Vous allez me contredire, c'est pas vrai, mais en même temps, je l'ai noté à chaque fois que ça se produit. James Wan adore quand l'action est interrompue. En fait, quand un dialogue est interrompu par une grosse scène d'action en mode jumpscare d'un coup.
Ah oui, bah, en tout cas, je remarque ça sur le bateau, là, clairement,
Non,
oui.
mais non, ça c'est une vraie scène d'horreur, sans que c'est pas
Ouais,
vraiment de jumpscare.
d'accord.
Là, je te parle plus du fait que les gens sont en train de parler, tout va bien, ah, on se rapproche et tout, on flirte un peu et bam, explosion. Et la scène d'action qui commence.
Écoute, j'ai pas remarqué.
C'est
Il y a la même.
toujours en plein dialogue interrompu comme ça. Il y a la même chose
En Sicile.
en
Ouais.
Sicile. Enfin, je l'ai noté 3-4 fois dans le film quand même. Donc,
Ouais,
c'est que ça revient.
quand le sous-marin vient les attaquer aussi, ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est un truc qui revient énormément. Et je me dis, ah, c'est là qu'on voit vraiment l'origine film d'horreur du mec, en fait. C'est qu'il aime
Ouais.
bien avoir un moment ah! Comme ça.
Bah, de toute façon, globalement, c'est déjà un mec qui stylise tout de suite sa mise en scène. Je veux dire, quasiment dès les premiers plans, t'as cette espèce de délire où il te montre le phare, tu zoomes dans le phare et ça devient l'espèce de globe qui est sur la table et ça transitionne d'une époque à une autre avec une photo. Enfin, t'as cette espèce de fluidité de la mise en scène qui est très tape à l'œil, mais que moi, j'adhère. Moi, j'aime bien les réels qui ont des idées, qui proposent des trucs. Et là, un mec comme ça, il me fait rêver. Moi, je kiffe, quoi.
Là, je trouve que les scènes, en tout cas du début, sont assez moches. Mais je respecte en fait, le film me gagne un peu. Ils arrivent à me gagner dans leur côté. C'est que je me mette dans leur camp à me dire, OK, j'aime bien Aquaman. Mais en même temps, je suis pas forcément convaincu à 100%, tu vois. Mais je respecte quand même. Je trouve qu'il y a un parti pris, un truc qu'il essaie de faire. Qu'on voit pas ailleurs, et rien que pour ça, je dis bravo parce que bon, on se bouffe des
Des
films de
trucs ternés,
super-héros en des boîtes de
ternés
conserve, on mange des boîtes de
exactement.
conserve, de la fast-food, du fast-food.
Ouais. Là, c'est un mec qui a vu Star Wars, qui a vu Le Seigneur des Anneaux, qui s'est dit je vais faire mon Star Wars Seigneur des Anneaux sous l'eau, quoi.
Ouais, je vais être aussi généreux que ouais.
Voilà, c'est ce qui manque de films comme Thor ou Black Panther, même s'ils ont leur qualité. Il n'y a pas un souffle très très épique comme dans ce film-là, où ils essaient d'avoir un souffle vraiment épique dans ce film. C'est-à-dire que dans tous les plans, il faut qu'il y ait plein de trucs. C'est vraiment.
Même au fur et à mesure de l'histoire, je veux dire, c'est rare un film qui va au-delà des promesses qu'il te fait, quoi. Enfin, je trouve que récemment, il n'y a pas eu de film à ce point-là où tu te dis, oh, ok, d'accord, ça va être l'histoire d'Aquaman, et tu finis par découvrir 5 royaumes sous-marins, par découvrir des créatures que tu n'avais même pas pensé voir, par voir une bataille finale que tu n'aurais jamais pensé. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a une démesure qui s'accumule où tu te dis, mais attends, mais c'était pas pour ça que j'avais signé là-bas, j'avais signé pour beaucoup moins, quoi. Et c'est quand même bien de tomber là-dessus plutôt qu'autre chose, quoi.
Donc elle s'en va. Elle décide de retourner à Atlantis ou
Ouais, ou se planquer, quoi, on sait pas trop.
voilà. Là, on flash forward vers Arthur qui parle au poisson. Est-ce
D'accord.
que je suis le seul
L'aquarium,
qui appelle la police directe?
J'appelle X-Files.
Non, mais
Ouais, c'est
franchement,
plus.
quoi.
J'appelle Mulder et Scully. Je leur dis, hey, les gars, j'ai vu un bagarre par le poisson. Je pense que c'est pour vous.
Et dans quel genre d'aquarium est-ce qu'il y a des requins qui se promènent comme ça avec les poissons normaux
Non,
parce que
il y en a pas
si
mal, il y
si
en a pas
si
mal.
non.
Il les bouffe pas quoi? Enfin, ça
Non,
m'étonne.
non,
Ah
non.
Ouais,
Non,
okay. aquarium de Paris, tu peux y aller. Il y a les deux qui se mélangent assez facilement. D'ailleurs, il ressemble
Ah,
beaucoup à l'aquarium de Paris, le mur devant lequel il est.
ok, parce que je sais que les requins blancs, par exemple, c'est impossible de les mettre dans un aquarium.
Ah non, mais ça, il y en a
Mais
pas.
c'est beaucoup trop
Ils
grand, ouais.
meurent direct parce qu'ils sont toujours obligés de bouger et tout, et au
Non.
final, c'est
Mais
trop
là.
petit en fait. Non, c'est pas parce que c'est trop petit.
En fait, je crois que les requins blancs, c'est un truc encore plus bizarre. C'est genre des espèces de trucs limite tu sais, d'ADN, de devoir aller aux endroits de la planète. Enfin, c'est beaucoup plus. Parce que par exemple, il y a des requins baleines dans l'aquarium, mais ils vivent très bien, donc ils sont plus gros que les requins blancs, tu vois.
Ouais, c'est les requins blancs qui sont chelous, hein.
Ouais, je crois que c'est requins blancs. On peut peut-être le décréter dans ce podcast, les requins blancs sont un peu chelous.
Ils sont voilà. Un peu chelous.
Parlons poissons.
Voilà.
De nos jours, des mercenaires attaquent un sous-marin et on fait la rencontre de Black Manta et de son père.
Alors moi qui aime bien me planter avec les prénoms, je vais vous laisser le prononcer le sien. Le comédien.
Ah, j'ai pas le nom du comédien.
C'est Yahya Abdul Mateen II.
Ah oui, c'est lui.
C'est okay. Le mec de Watchmen. Qui...
Oui, c'est oui, voilà.
Okay. Et de Us.
Watchmen, mais ouais.
Je pense qu'on va le voir dans pas mal de trucs, lui.
Bah, Matrix 4, Furiosa, il va être un peu partout.
Charisme. Ah, jeune Morpheus, oui, c'est vrai.
Mm-hmm. Bah, moi, je l'avais pas du tout remarqué la première fois que j'ai vu le film. Et depuis que j'ai vu Watchmen, je me suis dit, putain, c'est ce gars-là. Et dans Watchmen, il crevait l'écran. Donc, j'avoue que, avec le recul, bah, il m'a fait plaisir. Et il a un bonus spécial où il t'explique son perso et il est à fond dedans. C'est assez cool.
Bah, ouais, franchement, moi j'aime bien. Bon, c'est vrai qu'ils font pas énormément avec le personnage non plus, mais c'est un peu le personnage le plus mémorable des méchants d'Aquaman, Black Manta, quoi. Avec son masque, j'ai toujours aimé son masque et le fait qu'il ait des lasers et tout. Enfin, j'ai toujours trouvé son design super cool et je trouve qu'ils l'ont bien respecté dans le film. Et en plus, ouais, ils avaient aucune obligation de le mettre. Hein. Il sert pas à grand chose quand tu réfléchis dans le film. En soi, c'est plus, enfin, il n'apporte rien à la guerre entre Atlantis et, enfin, et bah, tout le bazar.
C'est un des seuls trucs du film pour aller vers une suite, hein, honnêtement.
Ouais, voilà, ça c'est.
Ouais,
vraiment...
mais c'est même pas genre abusé en mode on va faire une suite avec ça.
Non, non, non.
C'est clairement un côté, c'est le héros emblématique, faut qu'on le cale, on va le respecter à 100% sur le design et on va un peu le twister, va lui donner rapidement une origin story et tout ça. Moi, franchement, je trouve que c'est pas un héros mémorable, mais heureusement, c'est pas l'antagoniste du film. C'est vraiment le sous-boss, quoi, on va dire.
C'est ce qu'il sauve, moi, je trouve, hein, parce que j'ai un peu du mal avec sa motivation, mais bon.
Bah, sa motivation, elle est basique, quoi. C'est en mode, je veux me venger, donc
c'est
clair, net et précis. Mais bon, je trouve que c'est... je trouve que ça... Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il y a un écho avec ce que le personnage d'Akomo N vit, que je trouve pas si... Enfin, c'est très primaire, mais c'est pas si idiot, quoi. Ce côté, genre, ce que j'ai fait au début du film, je le referai pas à la fin, parce qu'entre-temps, je me suis fait des ennemis sans le vouloir, quoi.
C'est vrai.
Et ça, je trouve que c'est bateau, mais ça fonctionne, quoi.
Alors, on a une scène d'action plutôt cool qui me fait penser personnellement à quand Captain America débarque dans Winter Soldier et qui se fait tous les mecs un par un.
Sur le bateau, ouais.
Ouais, c'est un peu le même genre de truc, comment introduire son personnage. Et là, ils ont sûrement pris une page du bouquin des Russo, parce que ça me fait un peu penser à ça, quoi. Comment rendre ton personnage super badass dans la première scène, il arrive, il tape tout le monde. Bon, il a son style à lui, Aquaman, bien sûr.
J'avoue que pour moi, dans cette scène, c'est un peu too much, mais bon.
Ouais. Son style, pour info, c'est un mec, ils l'ont imaginé en mode baston de bar. C'est genre le gars, ouais. Il se bat dans les bars, et donc il utilise les bouteilles, le comptoir. Enfin, là, tu sens ce côté, genre, c'est juste une brute et il tabasse avec ce qu'il a autour de lui, quoi.
Comme Jessica Jones, quoi.
Ouais. Et ce mec qui fonce sur une porte et il l'éclate, c'est quand même pas mal, quoi.
Il y a des petits trucs pas mal. Et puis même, il met la caméra sur les flingues quand les flingues tirent. Et donc, on suit les tirs. Tu sens qu'il essaie de faire des trucs, quoi, quand même, au niveau du placement de caméra. Il essaie de faire des plans séquences assez régulièrement dans le film aussi.
Ouais, dans les scènes d'action, ouais.
Il y a le premier plan séquence au début avec Nicole Kidman qui, des fois, aide Isbir d'Atlan.
Après, bon, on en reparlera plus tard. J'étais pas trop fan de la guitare, et ça a disparu après dans le film, mais dans cette scène, dès qu'il fait un truc, il y a ta-na-na-na, c'est une sorte de guitare comme ça, et je trouvais que ça faisait un peu too much, mais ils le font pas dans le reste du film, donc ça passe, quoi.
Alors, pour le petit trivia, quand même, ce décor donc de sous-marin, il a été construit intégralement en studio, et il était construit sur des vérins qui permettaient de le submerger, donc pour le moment où il y a toute cette espèce de séquence où le sous-marin est en train de couler, quoi. Et ben, en fait, il le coulait radicalement sous l'eau. Et donc, c'était assez dangereux parce que l'eau montait jusqu'à quasiment 90% du plafond. Donc, c'était à voir. En tout cas, le décor était assez impressionnant parce que vraiment, ça pouvait tomber dans l'eau en quelques secondes et être totalement submergé.
Il y a une petite scène qui fait plaisir après où Arthur va avec son père pour picoler. Et on dit tout le temps que dans les films de super-héros, il y a toujours une scène avec des loubards dans les bars, les bikers ou ce genre de trucs qui viennent pour faire la bagarre. Mais là, ils retournent un peu le truc en disant qu'ils veulent un selfie. Et ça, j'ai trouvé ça sympa parce que quand la scène a commencé, je me suis dit, putain, encore une bagarre dans un bar avec des bikers. Dans combien de films de super-héros est-ce qu'on doit faire ça, quoi, tu vois, c'est...
Moi, je me souviens qu'au cinéma, je m'étais facepalm, hein, sur cette scène. Mais en la revoyant, elle passait plutôt bien.
Ouais, ça va, elle passe. Mais c'est en fait quand tu la compares à toutes les fois où il y a le même genre de scène.
Exactement.
Tu dis, ah, tant mieux, ils ont fait un truc avec. C'est un peu plus original, quoi.
Et alors, pour info, je veux dire, la boisson que boit Jason Momoa en vrai, c'était du café, parce que c'est ce qui ressemblait le plus à de la bière, et il a dû se faire des espèces de one shot de café en masse, et à la fin de la journée, c'était une pile électrique, c'était intenable. D'ailleurs, les photos qu'ils prennent dans le film sont des photos de lui en train de faire le con en mode premier degré, parce qu'il était tellement sous caféine qu'il faisait n'importe quoi.
Allons sous l'eau, où il y a des chevaux de mer géants.
Ouais, je tiens juste à préciser, on n'a pas parlé, mais j'aime beaucoup la manière dont il crée cette espèce de, bah, justement, le Black Manta, où, voilà, bon, c'est un peu artificiel, le côté le père lui donne le couteau juste avant que le père va se faire tuer.
Ouais, ça, c'est vraiment...
voilà, ça, c'est un peu artificiel.
Ça fait vraiment, deux jours de la retraite, quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment... Ouais.
Mais par contre, j'aime bien cette séquence où, justement, le père est en train de se noyer, tout ça, et Aquaman qui dit, enfin, vous avez tué des innocents, je vous laisse dans votre merde. Et je trouve que ça pose le perso parce qu'à la fois, tu arrives à le comprendre d'office, tu te dis oui, c'est vrai que bon, bah, il leur donne une bonne leçon. Et à la fois, bah, je trouve que voilà, quand à la fin du film, ce sera, il y aura une réflexion là-dessus, tu l'auras vu grandir et le parcours sera plutôt harmonieux.
Ouais, c'est un peu mieux que le parcours de Batman dans Batman v Superman où il tue plein de gens. Et dans Justice League, c'est genre, je suis le meilleur super-héros, il faut sauver tout le monde, quoi.
Voilà, je trouve qu'au moins, c'est expliqué. Tu arrives
sans qu'ils se remettent jamais en question. Hein.
Voilà, il y a une petite remise en question et je trouve ça plutôt bienvenu.
Donc allons sous l'eau pour rejoindre Willem Dafoe, Dolph Lundgren, qui est roux d'ailleurs. Et là c'est un petit peu d'exposition, hein, on est un peu obligé. On nous explique qu'il y a 7 royaumes. Le grand méchant du film est le roi et le demi-frère d'Arthur. Et ils sont en train de parler et là boum, jump scare, action. Et donc c'est la deuxième fois dans le film où on fait ça, tu vois, déjà. On est tranquille en train de parler, posé, en train de faire une scène d'exposition. Et là, James Wan, il dit, on se fait un peu chier, là. Ouais, on se fait un peu chier. Allez, c'est parti! Voilà. Mais j'aime bien. C'est marrant, je trouve.
Bah, surtout, putain, j'arriverai jamais à me souvenir au son. Comment Stewart? Patrick Stewart?
Ouais, Patrick, quoi.
Patrick Stewart.
Non, Patrick Stewart, c'est Xavier.
Putain, c'est vrai, excusez-moi. Patrick Wilson qui chevauche, l'espèce de,
je sais pas. Hippocampe géant.
Non, il est plus sur une espèce d'alligator de mer.
Oui, non, c'est un mosasaur, ouais.
Ouais, voilà, un mosasaur, en fait. Il chevauche un mosasaur, rien que ça, ça me suffit. Hein. Et il éventre un sous-marin. Genre, il est là, il chevauche un mosasaur en éventrant un sous-marin. Je trouve ça magnifique.
Donc, le plan du méchant, c'est de faire la guerre, enfin, de réunir tous les royaumes et de faire la guerre contre les gens de la surface qui polluent les mers depuis des années et des années. Techniquement, c'est pas une mauvaise raison de se battre. Hein.
Non, c'est clair.
Voilà, quoi. Imagine si en gros les océans, ils arrêtaient pas de nous balancer des drôles de trucs dans la gueule. En gros, les océans, elles seraient toujours les océans, les fleuves et tous ces trucs-là, ils seraient toujours en train de nous desservir, de nous balancer des trucs bizarres dans la gueule.
Bah, ce que je trouve pas mal, c'est qu'il y a ce côté où l'univers d'ici, là, quand même, il est compliqué à aborder parce qu'avec ces histoires de dieux grecs, d'Amazon et de peuple atlant. C'est quand même dur à croire. Et là,
ouais, il y a Zeus, il y a Poséidon.
Voilà. Et là, il y a le côté où ce peuple existe, mais il s'est tellement bien planqué que personne n'en parle et que c'est genre des rumeurs, quoi.
Ouais, t'as quand même des petits soupçons par-ci par-là, mais ça reste du mythe, quoi. Ouais,
c'est parce que la grande majorité de l'océan n'a jamais été découvert, donc pour l'instant, aussi, ça se tient, tu vois, ça se tient. Mmh. C'est pas comme si on avait.
Mais ça se tient, mais ce qui est bien, c'est qu'il le traite comme. Enfin, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on est au même point que les terriens, on se dit. Ah, ça existe ce truc, tu vois. Et dans le film, on est un peu comme ça. Mais ça existe les Atlants? Ah, ouais, ok, d'accord, ça existe. Enfin, tu vois, c'est pas, ça ne sort pas de nulle part. Et à la fois, ça a une raison d'être un peu mystérieux, quoi.
Mera trouve Arthur et essaie de le convaincre de venir.
Ouais, il y a une vague en CGI, pas dingo.
Non, c'est pas foufou.
Ouais, là, c'est pas dingo. Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de Amber Heard en Mera? On en avait déjà parlé un petit peu dans l'épisode sur Justice League où je disais qu'elle jouait pas très très bien.
Bah, c'est déjà beaucoup mieux. Hein.
Là, il lui donne quand même beaucoup plus de choses à faire et tu sens qu'elle comprend mieux son personnage. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Et je trouve que, je sais pas si c'est sa manière de jouer qui est comme ça, mais elle a l'air très coincée. Et ça marche avec le personnage, en fait. Plus ça avance, plus ça va, mais je trouve elle le vend bien, quoi. C'est ce personnage de princesse un petit peu.
Ouais, c'est lié à sa stature. Ouais,
voilà, quoi.
Mais ce que j'aime bien, c'est ses pouvoirs qui sont vachement mis en avant et bien mis en avant, je trouve. Enfin, tu sens qu'elle est puissante, quoi.
Bah, elle est même plus puissante qu'Aquaman.
Ouais.
Sa tenue, elle est bien mise en avant aussi. Hein.
Ouais, mais ça, je suis plutôt. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est une manière de rendre un personnage sexy, mais sans le sexualiser plus que ça. Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'elle est comme ça parce qu'elle a envie d'être comme ça et puis basta, quoi.
Ils font pas des plans sur ses fesses comme dans Suicide Squad, quoi.
Exactement, ouais. Alors que pourtant, bah, son costume est en effet ultra échancré et tout ça, mais d'une manière qui me fait pas dire ah ouais, ils ont fait ça pour les geeks de 15 ans qui ont pas vu une meuf. Quoi.
Bah, tu vois, à ce moment-là, tu dois mettre Momoa torse nu pendant tout le reste du film, quoi.
Bah, il est déjà pas mal torse nu quand même, il débarque torse nu et tout ça, donc ça va. Et c'est vraiment parce que Momoa, il a fait l'inverse de tous les autres acteurs du casting, où lui, il a dû perdre du poids pour le rôle.
Quel Drogo, il avait mangé un cheval avant le truc.
C'est vrai, il était trop stock en tant que Khal Drogo, et donc lui, il a dû faire un espèce de régime alimentaire et sportif très différent pour se devenir ultra sec et rendre plus avoir un physique de nageur plutôt que d'avoir un physique de bodybuilder comme il pouvait avoir avant, quoi.
Ouais, c'est parce la première fois que ça arrive, ça.
En Khal Drogo, il était. Non, c'est arrivé aussi pour Christian Bale dans Batman Begins.
Ah oui.
Où il est arrivé trop musclé. Et c'est la deuxième fois, là. Ouais.
Ah ouais. Et donc, il a fait de l'escalade pour se muscler, avoir le corps d'Aquaman plutôt que de faire de la gonflette.
Bah, j'échangerais bien mon corps contre le corps de Jason Momoa sans problème.
Tu prends les tatous aussi?
Ouais, ils vont ensemble. Ils vont ensemble, quoi. Donc, on apprend que Orm et Manta font équipe, et Orm décide d'attaquer Arthur et son père avec une vague énorme. Mera les sauve, et en même temps, on apprend qu'il y a des tsunamis partout dans le monde et que les océans renvoient les ordures sur la plage. Et ça, j'ai bien aimé le côté toutes les ordures qui reviennent sur la plage. J'ai trouvé ça cool.
Là, je suis d'accord. Je trouve que ça installe tout de suite un conflit qu'on arrive très vite à comprendre et.
Ouais, c'est un truc qui nous parle, c'est clair.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça a pas besoin d'être plus que ça pour qu'à la fin, tu te dises, bah, en effet, s'il y a une guerre, c'est la merde, quoi.
Willem Dafoe, qui joue un gentil mentor, c'est quand même assez rare. Hein.
C'est rare, c'est très rare.
Il joue contre...
Ouais. Toute ma première séance, j'étais persuadé d'attendre le moment où il allait être un putain de traître, tu vois.
C'est un bon gars.
Ouais, tout le long, c'est un bon gars, ouais.
Ça m'a fait penser à son rôle dans La Vie aquatique, tiens, ça va bien ensemble, où il joue un bon gars mais allemand qui fait un peu la gueule qui gueule, et je me suis dit il ferait un très bon sergent instructeur Willem Dafoe dans le genre.
C'est vrai.
Là on a plein de scènes sous l'eau avec des néons partout. Il y a un pont comme à Asgard,
il y a une espèce d'autoroute. Mais ça, moi, là je trouve qu'on rentre dans une partie du film où ils n'ont pas été, mijaurés, quoi. Ils y sont allés à fond, ils ont créé un univers avec des designs de véhicules dans tous les sens.
Dégueule, hein. C'est vrai que c'est...
Ouais, ils y sont allés, tu vois, ils ont créé vraiment tous les peuples, ils ont créé, ils ont tous des manières de vivre différentes entre les hommes crabes, les hommes poissons, les Atlants.
Je trouve juste qu'il y a un truc un peu con, c'est peut-être au niveau du scénario, hein, vous savez que moi, c'est plus ça qui m'intéresse la plupart du temps. Et c'est que... Les flashbacks sont très mal amenés et en fait, est-ce qu'ils apportent tant que ça au film ?
Non, en plus, ils sont mal joués. Ça,
ouais. Et le gamin, il joue pas très bien. Ouais. Le mec qui joue la version adolescente de Jason Momoa, c'est pas trop ça, quoi.
Ouais, non, je suis d'accord que les flashbacks, quand ils sont arrivés, je me suis dit, bon, j'ai beau aimer ce film.
On peut s'en passer en plus, hein. On peut en mettre un seul pour montrer qu'il l'a entraîné et c'est tout, quoi. Enfin,
La manière dont ils sont imbriqués, ça fait vraiment grossier, quoi.
Ouais. Ouais, si c'est juste pour montrer qu'il peut faire tournoyer son bâton pour l'utiliser à la fin, c'est quand même un peu pourri, quoi. Enfin, tout le monde s'en fout.
Complètement, c'est vrai. Ça, c'était vraiment.
Ça, je suis d'accord, c'est la sale partie, c'est pas beau, c'est moche, et le mec joue mal, et ça dessert le truc, quoi.
Donc, il faut trouver le trident magique. Et c'est un peu ça, le MacGuffin du film, c'est le trident magique.
Ouais, mais alors, c'est un MacGuffin. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un objet qui. Enfin, souvent, le MacGuffin, c'est un objet que les gens ont, et tu vois, qui physiquement circule. C'est plus ça le MacGuffin dans la définition d'Hitchcock.
Bon, là, bah alors c'est là, plus je veux dire
un trésor, quoi, à trouver.
Ouais, là, c'est plus le trésor. Mmh. Mais bon, c'est le trésor qui te donne aussi le pouvoir ultime.
Bah, en fait, le truc, c'est qu'il a déjà ses pouvoirs et ça fait que décupler ses pouvoirs par la suite, quoi. Donc, c'est pas non plus trop, quoi.
Bah, ça met tout le monde d'accord, on va dire.
Il vient le maître de l'océan.
Bah, c'est Excalibur, quoi. De toute façon, c'est basé là-dessus.
Oui, bah oui.
Bah ouais, à peu près tout le truc d'Arthur. Willem Dafoe, c'est Merlin. C'est son frère. Comment il s'appelle son frère à Arthur? Son demi-frère contre qui il se bat. Enfin, c'est exactement.
Non, mais tout est repris. Ouais,
De toute façon, le mec s'appelle Arthur.
Oui, en plus.
Ils le disent au début.
C'est parce que c'était le nom de la tempête, c'était ça le truc.
Oui, exactement. Ouais. Mais alors, par contre, donc là, ils arrivent à Atlan et ils ont eu toute une séquence dans un bateau où il y a une espèce de bulle d'air. Mmh. Donc ça, c'est un décor pareil qu'ils ont construit. Et je trouve que là-dessus, tu vois, il fait des efforts, James Wan. Donc ils vont se faire attaquer dans ce bateau. Et la séquence où les Gamex se font projeter et se retrouvent en dehors, donc ils passent l'espèce de barrière et se retrouvent de passer de l'air à l'eau. Pareil, ils l'ont fait en réel avec les mecs qui se faisaient projeter. Enfin, c'était vraiment bien fait. Et dans le film, je trouve que ça, t'as ce côté jouissif de l'action. Les mecs se sont fait chier à pas juste faire du CGI et à essayer de mélanger les deux de manière impressionnante, quoi. Et moi, ça m'embarque.
Bah, voilà le petit problème que j'ai avec le film, c'est que l'action est vraiment super bien. Mais il m'a fallu quand même pas mal de temps pour en avoir quelque chose à faire des personnages.
C'est un peu le problème.
Tu vois, je le trouve pas non plus super adorable, le Aquaman de Momoa. Tu vois, c'est pas le mec le plus sympathique du monde. Ou, tu peux jouer les mecs un peu cons comme ça, mais au moins tu prouves que t'as un grand cœur. Je le vois pas forcément beaucoup dans le film non plus. Quand il est plus jeune, on le voit pas essayer de sauver des gens ou ce genre de choses. Tu vois, je sens pas le mec au grand cœur. Et c'est que, je crois, aux deux tiers du film. Quand Mera et lui commencent à se rapprocher un peu, que là je commence à vraiment être de plus attaché au personnage que pendant franchement deux gros tiers du film où j'en ai un peu rien à foutre de ce qui leur arrive, quoi. Tu vois.
Bah, et à la fois, c'est un peu ce que le film essaie de faire, hein, je pense, d'une certaine manière, à te le rendre
petit
un
à
peu,
petit,
ouais, à te le rendre en tout cas, que le personnage, tu suis son parcours où le mec en a quelque chose à foutre que à partir de d'un certain moment du film, quoi. C'est ça,
ouais, mais à ce moment-là, met des personnages un peu plus passionnants que le mec qui veut revenger son père, l'autre qui veut devenir roi. Enfin, tu vois, il y a pas.
Bah, en fait, c'est censé être Mera, ce personnage-là, je pense.
Ouais, le personnage de Mera est super intéressant. Certaines des meilleures scènes du film, en dehors des scènes d'action, c'est quand elle découvre un peu le monde en dehors et ce genre de trucs. Mais ouais, je sais pas.
C'est très archétypo, ça, je l'accorde.
Ouais, voilà.
Et ça va pas au-delà de l'archétype. Mais c'est vrai que moi, c'est compensé par la richesse de l'univers qui est autour. Donc, je peux comprendre que c'est. S'il y a un point qui est clairement à reprocher au film, c'est ces personnages qui sont. Ouais, même son récit global qui est
personnage
très,
fonction,
très primaire, quoi. Ouais, voilà. Ouais.
Et le deuxième gros problème du film, c'est qu'on voit la pieuvre qui joue de la batterie, on la voit que un quart de seconde, et je trouve que c'est un crime, qu'elle devrait être là pendant tout le film, qui fait la, qu'il devrait y avoir tout un orchestre de pieuvres.
Bah, en parlant de ma femme, à ce moment-là, elle a fait exactement la même tronche que le mème de DiCaprio qui pointe son écran. On a l'air de dire genre, oh! Enfin, pourquoi tu pointes l'écran, là?
Tu sais que James Wan, en gros, la Warner voulait pas le mettre dans le film, et lui, il a dit, si dans Mad Max ils ont le droit de mettre une guitare avec une flamme et tout ce bordel, moi j'ai le droit d'avoir une pieuvre qui joue de la batterie. Et ils ont dit bon, ok, on va la mettre. Et
voilà. C'est un bon argument.
Tu m'étonnes. Non mais franchement, c'est ça fait partie. Voilà, c'est pour ça que j'aime ce film. Mais moi, il y a des trucs qui me font trop kiffer. Enfin, je veux dire, là, on arrive à la séquence où ils vont se battre.
On arrive à comment le combat des rois dans le cercle de feu.
Et moi, ce plan sur le public, par exemple, qui se prend
très bien.
Ouais, il est sympa, le plan sur le public.
Non, mais cette espèce de plan où il y a une espèce de baston et il y a un moment de blanc et après il faut genre,
ouais! C'est très années 90 pour moi, je sais pas pourquoi, mais c'est un plan très années 90.
Ouais, cette espèce de, bah ouais, parce qu'en fait, mais ce film a un délire années 90. En fait, j'en parlais récemment dans un podcast que j'ai fait sur les ailes de l'enfer, mais ça va, vous allez voir, je vais retomber sur mes pattes rapidement. C'est-à-dire que pour moi, Aquaman, il a cette caractéristique particulière que c'est un film qui est totalement premier degré, mais que si t'as envie, tu peux passer tout le film à te foutre de la gueule de ce film. Parce qu'en fait, c'est un film qui est tellement premier degré qui ne fait pas lui-même de l'autodérision.
Fast and Furious sous l'eau, hein, comme on avait dit.
Oui, voilà.
C'était au dernier épisode qu'on avait dit Fast and Furious sous l'eau, je crois.
Il y a des chances,
c'est un peu ça. Hein. Tu peux le regarder d'une manière sérieuse pour voir les voitures et les courses-poursuites et les trucs comme ça. Et tu peux le regarder en disant, putain, qu'est-ce que c'est con. et ça marche, quoi. Ouais.
Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins de films qui s'assument pleinement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tous les films, principalement les Marvel qu'on aime aussi beaucoup, hein. Mais c'est des films qui te disent à des moments, genre, bah là, on sait que c'est con, en fait. Enfin, tu vois, genre là, on sait qu'on est un peu.
Oui, il y a toujours un petit côté clin d'œil à la caméra. Dans
voilà, genre là, on sait que à ce moment-là, si c'est débile, on vous le dit. Alors que là, quand même, Ben non, ils te le disent pas, juste c'est à toi de te dire, bon, est-ce que je garde le premier degré ou est-ce que je me fous de la gueule du film? Je vais choisir, tu vois. Et
ça, non, en tout cas, la pieuvre qui joue de la batterie, moi, je dis, je suis complètement pour. Excuse-moi, vas-y, Max.
Oui, je voulais savoir, Zoltan, s'il en parlait un peu de ça, James Wan, dans les bonus, au niveau des intentions qu'il avait sur le ton du film, parce que des fois, non, c'est vrai que moi, ça me gêne un peu, cet entre-deux, je sais pas trop où me mettre, tu vois.
Ben non, non, il en a pas. Tout ce que je... Enfin, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a voulu créer un univers, essayer d'être le plus riche possible, le plus ambitieux dans sa manière de concevoir tout ce monde, et de surtout foutre tout ce que lui, il aime dans le cinéma. Donc, il va te mettre voilà, des références. Enfin, en toute la fin, il s'est dit, mais j'ai eu l'occasion de faire mon Star Wars pendant un quart d'heure, quoi, donc je l'ai fait, quoi. Et c'est ça sur tout le film, tu vois, où il va te dire, d'un coup, je peux faire du Jurassic Park, là, je peux faire du Mad Max, tu vois, je peux faire du ci, du ça, du Matrix, du Bitonio, du machin, du Gladiator. Donc, il a fait une espèce de pêle-mêle de tout ce qu'il fait. Et forcément, bah, quand ça déborde, tu canalises pas tout, quoi. Enfin, bon, c'est... Mais non, non, mais après...
On arrive aux 2h30 de film, à peu près, là.
tout est dit, c'est une trilogie en un film.
J'avais dit, ouais, Aquaman, c'est pas un film, c'est une trilogie d'Aquaman, en fait. J'aime bien, moi, le combat, là. Le combat est sympa avec le peuple et tout le tralala.
T'imagines, tu viens
c'est très
dire,
gladiateur, sous l'eau, c'est intéressant, c'est original, j'aime bien. Ouais.
Un combat bien. Entre deux mecs en armure sous l'eau qui se battent avec des tridents, on trouve ça cool. Hey, c'est quand même...
Ouais, non, ça, c'est franchement rempli, bien, quoi. Ouais. Dire,
c'est bon, quoi, le film réussit son pari.
Non, mais là, c'est très péplum, hein, là, pour le coup.
Ah oui,
vraiment...
là, ça y va à fond, ça fonctionne. Ouais. Toute la mythologie fonctionne, le cercle de feu, les règles ancestrales.
Le truc qui m'a vraiment fumé, moi, et qui m'a fait un peu sortir un petit peu de cette scène au début, c'est vraiment le côté chacun a ses stats affichés à l'écran avec.
Ça m'a fait rire. Comme si c'était un match de boxe.
Ouais, surtout comme ils se foutent de la gueule d'Aquaman.
Le roi, il a que des pour et l'autre, il a que des contre. Donc, Mera sauve encore Arthur pour la deuxième fois du film. Et on a une course-poursuite sous-marine pour retourner à ses origines Fast and Furious, j'imagine.
Exactement.
Où là, il y a des néons vraiment partout, là. Bah tu vois j'aimais bien la scène de bagarre juste avant le duel celle-là la course poursuite je suis un peu moins fan.
Non, je suis d'accord, elle est pas terrible. Mais bon encore une fois
et tu finis dans une baleine, quoi.
Il se cache dans une baleine.
Comme Pinocchio. Ouais.
Oui, parce qu'il faut savoir que tous les enfants qui se promènent en Sicile ils ont un exemplaire de Pinocchio sur eux pour les étrangers.
Je l'avais noté, celle-là.
Mais moi, pour le coup, tu vois, ça, c'est un délire où on voit quand j'étais, je me rappelle très bien mon souvenir sur le film, je me suis dit, ok, en fait, ils en ont vraiment rien à battre de la trame et ils l'assument. Je veux dire, le perso, une scène, il te dit, mais Pinocchio, mais c'est un livre avant d'être un film. Et la scène d'après, il te fait genre, hey, mais ces statues, c'est le roi machin.
Oui, alors ça, ça, ça oui, oui.
Ouais. Ils assument le fait qu'on
on y retournera, les gars. D'abord, ils vont au Sahara sur un remix d'Africa.
La meilleure chanson du film.
Et là, quand on parle de problème de ton, je pense qu'on y est vraiment là dans le truc parce que c'est sorti de nulle part et c'est vraiment.
Donc c'est Pitbull et qui d'autre? Et Shakira, un truc comme ça?
Non, je crois que c'est juste Pitbull qui fait un remix de Toto. Hein.
Ouais, c'est ça. Elle est énorme.
Je veux dire. Donc ils font une mission Indiana Jones. On est passé de péplum à Indiana Jones d'un coup.
Exactement. Ouais.
En même temps, il y a Black Manta qui construit son armure avec la caméra qui tourne autour de lui. Et je fais ça, c'est un truc qu'on voit souvent dans les films de super-héros. Par contre, le mec qui construit sa tech et son armure avec la caméra qui tourne.
Bah, c'est Spider-Man, quoi. Je veux dire, ouais. C'est Spider-Man des web. Là, t'as exactement la même séquence, quoi. Où il teste.
Ouais, et puis toutes les fois où Tony Stark il est en train de créer un truc.
Ah oui,
aussi,
c'est vrai, Tony Stark aussi. Ouais, mais là, tu sais, t'as le même truc où genre il balance, il appuie sur le bouton et c'est trop fort. Et genre, il a deux doigts de se prendre plein de toiles d'araignée. Là, il a deux doigts de se prendre.
Ouais,
de...
c'est vrai. Ouais.
Danger gamin, enfin c'est vraiment la même chose. Quoi.
Mais par contre, à partir du moment où ils arrivent au Sahara, moi je trouve qu'il y a une vibe film d'aventure qui est vraiment agréable. C'est vraiment cette partie du film que j'aime bien.
Moi aussi, ouais.
Où c'est vraiment un peu pulp, un peu décomplexé, et c'est vraiment.
Ouais, c'est en plus c'est plus calme parce que putain, on se fait agresser au niveau visuel dans toutes les autres scènes. Hein. C'est...
mais putain, t'as William Dafoe sur un roc à marteau.
Non mais c'est non-stop. C'est t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire. Attends, putain, attends.
Attends, la boule qui joue des tambours, des gladiateurs qui
battent. Oui.
William Dafoe, ça va pas un Maroc à marteau. Oh, là,
putain, il y a Dolph Lundgren, oh bordel. Ah, des hommes crabes, ah, putain.
Non, parce qu'en plus, au milieu de tout ça, on n'a pas dit, mais t'as quand même toute la genèse de l'histoire d'Atlantide où tu vois les sept royaumes, tu te racontes toute l'histoire des exilés, des mecs qui sont devenus. Toute l'histoire des mecs qui sont devenus tellement des poissons que c'est devenu des poissons, les mecs qui sont devenus tellement dans le noir que c'est devenu des créatures de la fosse. Enfin, les crabes qui sont devenus des crabes. Enfin, genre,
les crabes qui sont devenus des crabes.
Non, mais c'est ça, en mode, ils ont...
En gros, Atlantis, il n'y avait que des gens normaux et au milieu, il y avait des hommes crabes. Et ils ont fait, bon, bah, vous venez avec nous. Allez, hop, on s'en va.
Vous allez devenir des crabes.
Voilà. Il y a Mera qui lui pique de la sueur pour ouvrir le bidule. Lui, il fait une blague de beauf. D'ailleurs,
elle est bien
beauf, alors. Là, c'est pas mal de blagues de beauf d'affilée avec Arthur.
Ouais, il y en a beaucoup.
Ouais. Mais je peux comprendre que ces deux gens qui sont très très attirants aussi l'un que l'autre aient envie d'être soit attirés l'un par l'autre, tu vois.
Pour eux, il y a tout un délire où ils avaient une espèce de complicité sur le tournage de fou tous les deux, c'est que c'était vraiment ils se sont entendus comme cul et chemise. Et
ça, elle aurait bien besoin d'un garde du corps comme lui en plus. Ah, on avait dit qu'on n'en parlait pas, les gars. Putain.
Tu vois que t'allais pas réussir à résister, Sofiane. Non mais le mec, il me faisait hier comme quoi il allait résister. Ben non, t'inquiète. Ouais, donc ils sont bien entendus et ça se ressent à l'image. Je trouve que t'as l'impression de deux personnages qui s'apprécient réellement.
Mais Momoa, il a l'air de super bien s'entendre. Il s'était aussi avec Emilia Clarke, où c'était genre sa meilleure amie, quoi. Il l'a portée partout sous le bras, ouais, parce dire, qu'elle est toute petite en plus.
Donc,
oui, mais c'est du cinéma. Mais je trouve qu'il a l'air, assez safe comme gars.
Bah, c'est un gars qui est hyper porté sur la famille. C'est un
ouais, voilà.
Ça a l'air honnêtement, on n'a pas de dos dessus.
Mais non, pour l'instant, ça a l'air bien, quoi.
Ouais. Ça a l'air d'être un vrai, vrai bon gars, quoi.
Ouais, voilà. Ouais.
Jusqu'à ce que...
Donc, comment ils passent du désert à l'Italie?
Bah, ils savent où il faut aller, quoi.
Ils nagent, non?
Non, mais ouais, ils marchent combien de temps dans le désert?
Ah, parce qu'ils sont...
Ils ont l'air de nager très, très vite. Donc, si d'un coup, ils disent « je peux nager dans le sable
», j'imagine trop la scène toute pourrie, oui. Tu sais, où ils nagent comme Zohan.
Il y a une scène où ils nagent comme Zohan. Je veux pas être méchant, mais la scène du gamin...
Oui, c'est... avec le gamin, j'ai pensé à ça, oui.
C'est tellement Zohan.
Si vous avez jamais vu Zohan, rien que pour vos cheveux, je crois, c'est ça le titre.
Ouais, c'est ça, ouais.
Avec Adam Sandler, bah, franchement, vous allez vous dire « pourquoi vous nous dites de regarder ce film. C'est ça, il est vraiment chelou. C'est vraiment un film très chelou.
C'est très space.
C'est quand même une enquête d'un agent du Mossad qui finit dans un tournoi de foot à 5. La coupe du monde de foot à 5. Je veux dire, c'est quand même...
Entre la Palestine et l'Israël.
Voilà, le truc le plus improbable de l'histoire.
C'est un très beau film.
D'urban foot.
Ça, et il y a l'actrice d'entourage dedans, tu vois, on y retourne.
Oui,
voilà, bah, on a fait full circle.
Ouais, mais n'en parlons pas parce que c'est un crush de jeunesse quand même.
Ah, c'est un crush. Okay.
Ouais. Et elle a joué dans dans le premier film de Manu Payet aussi.
En parlant d'un crush, il y a Mera qui mange des fleurs. Je trouve ça trop mignon. J'aurais fait pareil, tu vois. Elle était trop mignonne à manger ses fleurs que je fais bon, allez.
Alors, petite anecdote.
Allez, vas-y,
le village en Italie dans lequel il tourne est un vrai village à la base. Mais,
c'est Wiki Zoltan.
Exactement. Des Blu-ray Zoltan. Mais au moment où, en fait, ils avaient prévu de tourner dans le vrai village, et les Italiens leur ont dit, mais vous avez l'intention de péter la moitié de notre village, ou bien? Donc, ils se sont emmerdés à reconstruire une énorme partie du village en studio. Et je trouve que ça fonctionne bien dans le film. Il y a vraiment ce côté village, faux village italien Disneyland, un peu. Mais qui au moins a l'air d'être là, et c'est le cas, parce qu'ils ont vraiment, ils se sont fait chier à construire énormément de, bah, toute la place et les bâtiments autour sont des vrais bâtiments en studio, c'était un énorme décor.
J'ai une mauvaise nouvelle, les gars. Il y a Orm qui tue le roi des hommes poissons.
Oh. Et d'ailleurs,
je pense qu'on est tous en fond de nous des hommes poissons, tu vois.
le roi des hommes poissons, il est joué par Jimon Unsu.
Ah ouais?
Il est joué par Jimon Unsu, le roi des hommes poissons.
Ah, ok.
Et vous savez
qui est aussi dans Shazam.
Et oui, c'est vrai.
Ah oui. Et dans Guardians.
Oui.
Ah, il est partout, lui.
Les hommes poissons, c'est que des maquillages à partir du haut de leur corps. Il y a pas de CGI, à part peut-être un peu de bronchies qui déborde, mais sinon c'est vraiment des maquillages prosthétiques.
Non, mais c'est plutôt bien fichu. Enfin,
c'est autre chose que les hommes caviar. Hein.
Ah, c'est autre chose que les hommes caviar. Là, pour le coup. Et c'est marrant parce que je trouve que la mythologie de ce peuple fonctionne bien. C'est un peu les esthètes qui sont devenus totalement pacifiques et qui ont juste des espèces de. Enfin, c'est genre des philosophes à plein temps, quoi. Et ils me font marrer à se faire mépriser par les militaires qui les butent et qui arrivent chez eux. C'est vraiment.
C'est vrai que c'est gratos. Hein.
C'est tellement gratos.
Ce qu'on aurait dû faire avec la Suisse il y a bien longtemps.
Voilà, exactement. La Suisse et la Suisse. Bah, les Chinois, ils ont bien compris. Hein. Je veux dire, avec le Tibet, c'est littéralement.
Oui, c'est ça aussi. Ouais. Mera et Arthur se rapprochent. Et là, on a boum, jumpscare, bagarre.
Black Manta.
Ah, c'est vraiment là, ils se rapprochent, ils vont pour s'approcher et tout, et bam, ça pète. James Wan, il fait, ha, vous l'avez pas vu venir celui-là, hein, bande de cons.
Là, ils avaient déjà découvert toute l'énigme super compliquée de,
oui, c'est vrai
de la, la bouteille et de la statue.
Elle a vraiment aucun sens. Hein.
Ce qui fait marrer, moi, c'est que d'un coup, le mec est devenu prof d'histoire alors que
ce qu'on non, et attends. Il trouve la statue de Romulus, on est d'accord.
Ouais.
Toutes les autres statues sont pétées à moitié pétées. Il n'y a qu'une seule statue qui a la main tenue comme si elle tenait était une bouteille, prête à tenir une bouteille. C'était la seule statue. Donc moi, j'aurais même pas eu besoin de regarder les noms. J'aurais fait bah celle-là.
Mais comment le roi Atlante il a pu mettre au point cette énigme, sachant que Romulus il est arrivé bien après.
Et moi, oui.
C'est ce qui m'a perturbé moi, mais bon.
Ah bah là, je pense que le film perd quelques points sur IMDb là.
Ouais, c'est ça.
Non, mais toute cette scène, là, avec le fait que comment est-ce que enfin. Son père, même s'il lui a raconté quand il était petit, mais comment tu te souviens de tous les rois, de qui était roi et qui n'était pas roi, enfin, à moins que tu aies continué à lire des bouquins toute ta vie.
Il les reconnaît de vous. Mais ce que j'aime tellement, c'est que pour moi, cette scène est excusée par le fait que 2 secondes avant, il te sort la phrase de « Ah bon, Pinocchio, c'est un bouquin !» Genre, t'es face à un roi des beaufs qui, d'un coup, est un écart de génie d'histoire. Enfin, on s'en fout, quoi.
On a du parcours sur les toits en plan séquence avec le mec qui défonce tous les trucs, tous les murs. Ça
bah,
c'est sympa.
C'est une belle séquence.
J'aime bien cette scène d'action.
Ils l'ont fait en physique, hein, une bonne partie. C'est-à-dire que le mec qui passe à travers 5 murs, je crois, un truc comme ça. Ça, ils l'ont vraiment fait. Hein, et après, la caméra sort de la fenêtre. Et à partir de là, c'est un plan digital qui rattrape Mera sur les toits. Et c'est un plan marquant hein, qui était en bande-annonce. La bande-annonce, ça durait 5 minutes, hein, je me rappelle.
Il y avait tout le film dans la bande-annonce.
Ouais, c'était abusé. Enfin, non, justement, il n'y avait pas tout le film, c'est ça qui était fort. C'est qu'elle avait beau durer 5 minutes, tu n'avais pas du tout le film, et tu t'arrêtais limite à ça, et t'en avais encore sous la pédale. Mais bah, moi, j'aime bien cette mise en scène un peu jeu vidéo par moment, et à côté, au moins.
Ah, là, c'est totalement une mise en scène jeu vidéo, c'est-à-dire la caméra n'existe pas, c'est une mouche. Elle se promène partout, en fait, tu vois, tout est fait. Tout est réfléchi numériquement, là, en fait, je pense, tu vois.
Bah oui, mais à la fois... Et
mais c'est chorégraphié quand même, quoi.
Ouais, ah, surtout, oui. C'est surtout que, pour le coup, ce plan, il y a le making-of est assez impressionnant, où tu vois le caméraman qui court derrière le mec en costume, qui défonce les murs un par un, et tu vois, tout ça a été vraiment filmé, quoi. C'est pas du full CG, et le CG se fait que en transition de la fenêtre au toit, et après, Mera qui court sur les toits, c'est un plan de drone, et après, le zoom arrière sur Aquaman, il est vraiment à côté d'un clocher, enfin... T'as quand même, tu vois, c'est du compositing, quoi. C'est, tu fais les raccords numériques avec des points de vue réels, et je trouve que ça fonctionne. Moi, j'aime beaucoup ce plan. Je trouve que c'est un plan très dynamique et qui me plonge dans l'action.
Moi, j'étais super content des scènes entre Arthur et Mera, et d'un seul coup, on se tape ce gros plan séquence, et je fais bon, ok, il est cool, d'accord.
Ouais,
mais ensuite, on a la bagarre entre Aquaman et Black Manta, et ça commence à faire, ça fait beaucoup en fait d'un coup, en fait. C'est genre, ils nous balancent vraiment tout dans la gueule, quoi.
Ah, c'est l'image du film, hein, c'est surchargé.
Ouais,
un peu,
c'est vraiment surchargé. Ouais.
Et Black Manta, donc pour info, ils ont vraiment créé un casque où le mec avait la même gueule, mais pour les combats, ils ont créé un casque un peu différent avec des capteurs de motion capture pour réussir à reconstituer le casque en 3D derrière.
Il est trop cool.
Il est trop classe. Quoi. Enfin, le costume, et ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment crédible. Hein. Enfin, je veux dire, toute la technologie qu'ils lui ont filé, tu vois où il les a mis. Tu vois, genre le truc qui était sur le fusil, il l'a mis dans le dos pour créer sa recharge des yeux. Les jetpacks, il les a pas en noir, il les a mis sur ses chevilles. Enfin, c'est vraiment.
Et puis pour le coup, les fans hardcore d'Aquaman, ils en ont pour leur argent parce que c'est vraiment hyper hyper ressemblant aux tenues de Black Manta.
Ouais, ça ressemble à fond, ouais, carrément.
Mais là, t'as surtout le meilleur gag du film, quoi. Enfin, là, je veux dire, t'as le gag des toilettes, quoi.
Ah oui, ouais. Je... Ah, bah, franchement, il m'a pas fait rire.
Une petite énorme, respiration.
Allez, énorme.
Ah non, moi, ça m'a pas. Pas vraiment.
Ouais, mais toi, t'es trop intelligent pour le genre de blague. Enfin, un mec qui n'arrive pas à respirer.
Je suis le roi des sultans, on sait très bien tous les deux que je suis le roi des cons, tu le sais très bien. je mets des lunettes et je fais genre de parler avec un langage soutenu, mais on sait tous. Non, que
surtout,
je suis le roi
t'as
des
une
cons.
Pipe. C'est surtout ça qui me trouve.
C'est ça, quoi.
Le long du podcast, je le vois pas, mais t'as toujours une pipe à la main.
Je suis toujours en train de tasser ma pipe.
Exactement.
Je la fume jamais, mais je suis toujours en train de la tasser.
Il est là, il tasse sa pipe et il parle des Sopranos. Quoi.
Et Matrix de temps en temps.
Exactement. Oh bah, la Matrix, au-delà, c'est, tu fais le semblant de hacker.
J'ai vachement bien aimé Mera qui fait un Kamehameha avec du pinard.
Ah ouais, non.
C'est génial.
Ça, j'ai trouvé ça cool. Et franchement, le personnage de Mera, à cause de sa scène dans Justice League, était vachement pas bien parti pour moi. Genre je me suis dit bon ok Amber Heard ça se trouve elle sait pas du tout jouer, c'est une cruche, enfin voilà quoi, c'est peut-être le personnage que j'aime le plus dans le film au final, c'est Mera.
Bah, je suis d'accord parce que c'est pas du tout une demoiselle en détresse, c'est vraiment une princesse,
bah, c'est même l'inverse, hein.
Une grosse badass qui fait que sauver Aquaman tout le film, qui est trop forte, et c'est
que à partir de ce moment là que je commence vraiment à apprécier les personnages, tu vois, il a fallu qu'ils me gagnent, qu'ils gagnent mon estime,
mais à la fois c'est ça qu'un film sert, c'est d'y aller, tu vois, de se battre à chaque séquence pour te
guider. Ouais, bien sûr, mais tu sais, on est un peu habitué de nos jours à être « Ah, ce personnage est cool », enfin voilà, quoi, tu vois.
Je suis d'accord.
Et au final, on se dit, ceux qui nous ont pas marqués comme ça, c'est les Doctor Strange, les Captain Marvel et les films comme ça, tu vois, qui
et là, on
au
est
final
d'accord.
N'ont pas vraiment réussi à gagner notre estime du personnage, en tout cas.
Et donc là, on est d'accord que normalement, dans un film normal, le film s'arrête. Enfin, on arrive un peu à la fin du film, tu t'es battu contre le méchant, et pourtant, non.
Là, on va avoir la bataille des cinq armées.
Il y a quand même le passage de la fosse, là, on arrive dessus.
Bah, ouais,
un truc hyper marquant du film.
Mais Mera joue de la flutine quand même, et elle a volé un bateau. Elle est franchement trop cool, Mera.
Elle est mignonne, même quand elle vole un bateau, t'as l'impression qu'elle le fait avec
elle. Elle joue de la flûte tranquille, je sais pas pourquoi.
Elle fait bien marrer cette réplique d'ailleurs, mais ils sont pas en libre service, vos bateaux. C'est pas des Vélib, pas dans le bateau.
Et Orm emprisonne Willem Dafoe.
Là, il s'est
on s'en fout un peu de Willem Dafoe dans ce film.
Oui, on a juste.
Un peu
je pensais qu'il allait mourir à ce moment-là, en fait, moi.
Moi aussi, mais non. C'est un film qui est bienveillant jusqu'au bout. Quoi.
Voilà. Donc, Mera et Arthur se font attaquer dans la tempête et on sent vraiment le côté film d'horreur. Là, c'est... Et ils s'enfuient grâce à la lumière et c'est très stylé.
Mais pour le coup, là, pareil, hein, les poissons, ils ont fait des vrais costumes en latex. Et
mais
tout.
Ils sont classe. Hein.
Ils sont trop bien faits, ces créatures. Et c'est assez malin parce que c'est des créatures qui ressemblaient pas du tout à ça dans les comics. Mais de se dire, c'est des créatures qui fonctionnent pas avec les yeux, qui sont extrêmement nombreux, qui ressemblent à des espèces de hordes de piranhas.
On dirait des murlocs un peu.
Ouais, des murlocs, exactement. Mmh. C'est des murlocs, en fait. Et c'est de la machine à voyager dans le temps. Là. Et c'est trop classe. Et c'est ce plan où il tombe dans l'eau. C'est rare dans les blockbusters que tu aies vraiment des images qui durent.
Ça me fait penser à Ragnarok.
Un peu, ouais.
À certains plans dans Ragnarok qui sont vraiment, vraiment marquants comme ça. Et c'est dans Aquaman, la seule fois où je les ai vraiment retrouvés. Parce que je trouve pas que les Russo dans Endgame, ils aiment bien trop faire ça, des beaux plans, tu sais.
Ils font des plans de bataille, mais c'est pas...
De temps en temps, il y en a des beaux. Dans Endgame, il y en a eu des bons. Allez, on va le dire, dans Endgame, il y en a quelques-uns qui sont pas mal dans la bataille finale et tout.
Ouais, mais c'est jamais des plans qui sont aussi bien. Là, il y a vraiment un côté pictural qui est très poussé, c'est ça, avec ce contraste de couleurs, cette lumière centrale. Et James Wan, il le dit dans le DVD, il dit vraiment, genre là, j'ai voulu m'éclater avec l'imagerie numérique pour créer quelque chose d'ultra fort, quoi, vraiment, genre... Et là, tu sens qu'il s'est fait kiffer, quoi. Avec ce côté, la mer qui divise l'image en deux, les reflets du tonnerre qui éclaire la mer, la lumière rouge, les créatures qui tournent en hélice autour. Enfin, c'est dantesque, quoi.
Mais je sais pas si vous souvenez quand le film est sorti, mais cette scène avait tellement marqué les gens que du coup, il y avait un film d'annoncé juste sur la fosse, en fait, sur The Trench.
Ah non, je me souviens pas.
On n'en a plus trop entendu parler depuis, mais ils avaient vraiment prévu un film, du coup, sur ces créatures-là, quoi. Enfin, dans cet univers-là.
Ben, c'est apparemment ça qui me plaît, c'est de me dire que le cinéma, c'est aussi un plan, quoi. C'est un plan, le plan, il te raconte toute une mythologie, tout un univers, il est magnifique, t'as envie de le mettre en poster animé dans ta piole, enfin, c'est énorme, quoi. Je kiffe, moi, j'adore.
Et il se retrouve sur Skull Island.
Putain, c'est énorme. Tu passes à ça et après tu te retrouves au centre de la Terre avec des ptérodactyles, quoi. Enfin,
et des vélociraptors sur la plage.
Ah non, mais c'est grandiose, quoi. Par contre, là, on peut quand même dire qu'ils ont allègrement piqué toute cette partie de l'intrigue à Dragon 2,
le film d'animation. Oui, oui, c'est clair.
Mmh. Mais de manière genre abusée, quoi. Genre,
non, non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, ouais.
Il y a un truc aussi, c'est que les dinosaures n'ont pas de plumes, et ça, je trouve ça honteux, voilà, c'est tout.
On est d'accord.
Ah ouais, mais si vous faites partie de cette team-là, je pense que vous allez bouffer mes chouchis et vous laisser, parce que...
Bah, dire, c'est... On est dans la team science.
Oui, ouais, c'est ça.
C'est tout.
Mais si la science vous aurait amené William Defoe sur un requin-marteau, je ne pense pas.
Bah, s'ils mettent des plumes sur le requin-marteau, on en reparle.
Ouais, la science, je vous... Ok, d'accord, vous êtes la science, vous opérez.
La science, c'est juste on met des plumes sur les trucs, en fait. Ouais. Et en fait, on voit qu'il y a Nicole qui est déguisée en homme-poisson.
Elle aime bien les costumes chelous, quand même.
Bien joué, Nicole. C'est vrai qu'il est vachement chelou, son costume. Et elle a vieilli. Hein.
Voilà. Ouais, c'est bon, elle est comme elle est normalement.
Voilà. Et ça énerve les gens, apparemment.
Oui, parce qu'elle est botoxée, ouais. Mais bon, ça, elle fait ce qu'elle veut.
Moi aussi, hein, c'est bon.
C'est vrai, mais toi, c'est pour ça que tu fais du podcast, Podcan. Du podcast, ça fait.
Podfian.
Un nouveau Pokémon. Imaginez, ça mélange entre Michel, Sofiane et un micro.
Arrête, j'ai eu des rêves comme ça.
Ça devient bizarre.
Donc, il doit aller affronter la grosse bébête pour devenir roi. C'est un peu aller affronter le Kraken, hein, en gros.
Ouais,
ou dans mon Tipiton Holy Grail, aller affronter le lapin blanc. Voilà. Ouais,
juste après le vieux qui parlait de la 738. Là. commençons pas à nous lancer sur mon Tipiton.
Petit fun fact que bon, la plupart des gens doivent savoir maintenant, c'est que c'est Julie Andrews qui a fait la voix de la bestiole. C'est plus connue pour The Sound of Music et bien sûr Mary Poppins. C'est elle qui fait la voix. Quoi.
Voilà. Et c'est son dernier film.
C'est son dernier film, voilà. Ouais. Ouais. En effet.
Ouais. Mais la créature, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un côté progressif dans la découverte. C'est que
ça,
ce qu'on
c'est
te
vrai.
Vend à la base, tu te dis oh, que le corps de Tentacule, et quand il débarquera plus tard, tu fais ah ouais, non, c'est un peu plus gros que ce que j'avais.
En fait, c'est Cthulhu le truc. Hein.
Ouais, ouais. Tu comprends pourquoi tu avais un bouquin de Lovecraft dans la maison du padré d'Aquaman.
Ouais, pareil, ouais, voilà, ça c'est très Lovecraft.
En hein. Référence de James Wan, il s'est fait kiffer, il a mis une créature Lovecraftienne à Donf. Je veux dire, ouais, il a mis le vrai Cthulhu à la fin. Là, t'as ce plan où il sort de l'eau. C'est...
Cthulhu.
Ça va, et c'est un CH, ça se prononce tout en français. Sofiane regarde son dictionnaire, non.
Laisse-moi vérifier. Non, il arrive à contrôler la bestiole grâce à ses pouvoirs. Et
il arrive surtout à la tchatcher. C'est surtout ça.
Oui, c'est plus ça. Ouais.
Voilà, il arrive à parler avec.
Il dit, ah, tu parles
Et donc, il récupère le trident magique et se connecte à la matrice des poissons. On a un plan là avec tous les trucs. Avec on voit qu'il est connecté à tous les poissons du monde.
On fait un point costume ou pas?
Allez, vas-y, balance.
Costume original, ça fait plaisir à la famille, hein, on va le dire.
Costume original qui arrive au bout de 2 heures de film, qui donc n'est pas ridicule parce que tu l'as attendu tout le film.
Ouais, Man of Steel, ils ont fait pareil.
Oh, il arrive au bout de 30 minutes, qu'est-ce que tu racontes
C'est très bien que moi, la notion du temps.
c'est vrai, là, mais bon, là, voilà.
Toi, c'est les noms, moi, c'est le temps. Hein,
ouais, c'est clair. Ouais. Si Sophie, elle vous dit que cette scène a été longue, qu'elle dure 20 minutes, sachez que c'est 35 secondes en moyenne. Voilà. C'est à peu près ça la conversion. Mais qu'est-ce qu'il est classe, ce plan de lui qui sort de la cascade et qui plante son trident et qui a mis au costume. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vais voir des films de super-héros, moi. C'est
ouais, là, on est à quoi, là, 3h20 de film, à peu près?
Bah, on est à la fin du deuxième épisode de la trilogie. Il y a la bataille des 5 juste après.
Et donc Atlante se bat contre les hommes crabes.
Ouais,
les pauvres hommes crabes.
On n'a pas du tout parlé du délire, mais c'est vrai qu'il doit, au fur et à mesure, ils ont 7 nations, il y en a une qui a déserté, il y a la Trench, donc la nation des gogoles qui parlent à personne, quoi, et donc il en reste plus que 5.
Mais en fait, l'idée, voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a, il y a 7, 7 pays, enfin 7 contrées, et en gros, il faut qu'il y en ait 4 sur les 7 pour pouvoir déclencher la guerre.
Voilà, et en sachant qu'il y en a deux avec lesquels on ne peut pas communiquer, et la dernière qui résiste, c'est les hommes crabes.
Les hommes crabes. Moitié homme, moitié crabe. J'étais obligé, hein, franchement, t'es obligé de parler. Enfin, si vous avez regardé South Park,
Bien sûr.
Ouais, okay, d'accord. Et là, en gros, c'est un kaiju dans l'eau. Hein.
Là, c'est ouais, c'est un Seigneur des
Anneaux
Star
c'est
Wars.
Godzilla, c'est Godzilla dans l'eau. À un moment, il y a la bestiole qui arrive, qui détruit tout le monde. C'est vraiment Godzilla, quoi. C'est...
Ouais, mais juste avant, c'est Star Wars, quoi. C'est...
Oui,
oui. Oui
mais... c'est les fighters, c'est des putains de requins sur des putains de requins avec des attentes en dedans, quoi.
Mais en fait, je me dis que c'est vraiment le sujet de base où on se moquait tellement. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans les océans? Qu'est-ce que c'est ça? Juste un mec qui parle aux poissons. Et en fait, quand tu réfléchis vraiment à tous les concepts que tu peux foutre dans un film comme ça, et il l'a fait, hein, il en... regarde, il a fait film d'horreur, il a fait Peplum, il a fait Indiana Jones, il a fait Star Wars, il a fait Kaiju. Voilà, je peux que applaudir, même si je trouve que le film dure trop longtemps et que j'ai un peu de mal au niveau scénario. Je peux que applaudir au niveau réalisation. Putain, il s'est vraiment vraiment fait plaisir le mec. Et il a aussi mis Fast and Furious. Enfin, j'en oublie. Hein, parcours à la Casino Royale sur les toits. Enfin, tu vois, il a mis tous les trucs qu'il aimait bien et on le sent quoi. Tu vois, c'est.
Mais pour le coup, je trouve que cette séquence de, enfin, cette bataille de fin, il y a un plan qui est ultra impressionnant où ça m'a fait penser vraiment à du Peter Jackson. Où il arrive à te créer différentes échelles, tu vois des mecs se battre au sol, après tu décales, tu vois un tir d'artillerie, tu suis le tir, tu arrives sur des batailles de vaisseaux, enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est une bataille spatiale, enfin, aquatique, je veux dire, mais elle dure très peu de temps finalement, elle doit durer 7 minutes.
C'est vrai qu'elle n'est pas très longue. Hein.
Mais en fait...
Arrêtez, elle fait facile 35, 40.
Mais tu vois, il te fait assez de plans, enfin, je veux dire, les plans sont assez malins, pour réussir à te donner un sentiment de satiété, quoi, d'entièreté. Quoi. T'es comblé de tout ce que t'as vu, c'est bon, t'as pas besoin de voir plus, t'as une idée de quoi ça ressemblerait cette baston, et ça te suffit. Et ça, c'est vraiment malin de se dire, voilà, en 15 minutes, je te plie une baston dantesque, alors que finalement, bah, c'est ultra expédié. Quoi.
Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses. Quoi. J'ai envie de dire que satiété va craquer.
Oh, bravo. Elle est venue de très très loin. Enfin, là, il est cherché au fond des océans.
Tous les poissons ils viennent aider, c'est cool. Mera et Arthur s'embrassent.
C'est le plus beau de l'histoire du cinéma, je tiens à le signaler ici.
Je tiens à dire que moi, vous m'entendez régulièrement me plaindre du fait qu'il n'y a pas assez de romance dans les films de super-héros, que c'est un truc qu'on a enlevé, surtout dans les Marvel, on a complètement enlevé des films, en dehors de certains trucs, mais c'est rare. Et je trouve que Mera et Arthur, ouais, je me dis embrassez-vous, c'est bien. Voilà.
Allô ?
Ah, ça a coupé.
Qu'est-ce que je disais?
Tu parlais de romance dans les films Marvel, qu'il n'y en avait pas assez.
Oui, donc je trouve que ouais, dans les films Marvel, il n'y a pas beaucoup de romance et que c'est un truc qu'on a un peu oublié des films. Je ne sais pas pourquoi exactement. Pourquoi est-ce qu'ils ont... Je pense que pendant un moment, ils ne savaient pas quoi faire avec, comme avec Natalie Portman ou avec dans Doctor Strange, il y a Rachel McAdams qui sert à rien. Enfin, tu vois, il y a souvent ce personnage qui est juste là pour être.
Parce qu'ils veulent pas. Enfin, parce que avec les mouvements, on va dire les prises de conscience actuelles, il y a aussi un rejet de cet archétype de le couple qui se forme, le héros qui pécho à la fin. Enfin, voilà, des archétypes d'histoire qu'on a eu pendant des décennies et qui maintenant paraissent désuets ou voire rétrogrades, mais là, ouais, Aquaman, ils le font avec tellement de... Enfin, après, ça existe, quoi. Enfin, je veux dire...
Tu vois, ça marche aussi, par exemple, Gamora et Quill, tu vois, ça marche. Mais c'est rare, ça se fait rare, en fait.
Il y a Spider-Man avec Mary Jane aussi, où c'est un petit peu original dans la manière dont c'est amené. T'as l'impression que c'est pas la bonne personne, en fait, dans le premier film, et ensuite, tu découvres la vraie Mary Jane, quoi.
Ouais, voilà, il y a ça, mais bon, c'est pas non plus, c'est adolescent, c'est pas une énorme grande histoire d'amour.
Oui, c'est clair.
Enfin, que tu la compares à la Mary Jane de
Rémi.
De Rémi, c'est quand même autre chose, et même avec Emma Stone dans les autres. Hein, enfin, il y avait beaucoup plus une histoire d'amour que dans les films Marvel, hein, je trouve. Et ouais, je les vois et je me dis c'est bien, ils vont bien ensemble, ils ont bien montré ce qui pouvait les attirer l'un et l'autre, et c'est bien amené et j'étais content.
Enfin, ouais, c'est bien amené, ça arrive à la fin de façon naturelle et puis le baiser un peu iconique, ça marche.
Ah, il est au-delà de l'iconisme, je veux dire, t'as un 360 degrés sous l'eau au milieu d'une bataille et des feux d'artifice derrière eux, en termes d'iconisme, ça se pose quelque part quand même, là, on est très très bon. Et après, il enchaîne par Aquaman qui fait du surf sur un hippocampe. Et alors ça, pour le coup, c'est la première image que James Wan a montrée en disant, bon, vous voyez, l'image d'Aquaman tout pourri, donc il a montré une page de comics avec Aquaman sur un hippocampe. Et ben dans mon film, ça ressemblera à ça. Et là, il est en train de faire du surf sur un hippocampe. Il a dit, voilà, ça peut être cool aussi Aquaman, les gars.
My man. On l'avait pas dit depuis le début. Nicole débarque, il y a la bagarre des rois, hein, quand même, de nouveau.
qui est assez joli aussi visuellement, je trouve.
Ouais, avec les hélices énormes derrière et tout, c'est beau ça. Pareil, c'est numérique à mort, hein, mais c'est beau. Hein.
C'est moi ou toute la fin est un peu anticlimatique, comment on dit en français, je sais plus comment on dit. Parce que Nicole Kidman qui débarque et qui calme Orm en lui faisant un câlin parce qu'il avait juste besoin d'un câlin de sa maman au final, était là genre ok, le mec il était parti pour génocider des gens sous l'eau et sur l'eau et sur terre, et non, il avait juste besoin d'un petit câlin de sa mère, et j'étais là genre et Aquaman lui sort, et un de ces quatre on parle toi et moi entre hommes, hein, et j'étais là genre c'est Hitler le gars quoi, enfin ou pas déconner quand même.
Ah, il finit en zonzon quand même.
Et le Kraken est content.
Mais le Kraken, elle est belle cette image de. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment, je sais pas le prononcer, le monstre de
Cthulhu.
Voilà, exactement. Cthulhu.
Cthulhu. Cthulhu. Voilà. Cthulhu.
Ouais, Cthulhu. Bref, c'est vraiment cette image là dans la brume et tout avec toutes ces tentacules, c'est grandiose. Ouais.
J'aime bien. Si ça se trouve, j'ai une connerie en plus. Hein. Si ça se trouve, ça se prononce Cthulhu.
Mais il y a plein de prononciations différentes, je crois.
Ouais, voilà.
De toute façon, on n'est même pas supposé réussir à le concevoir. Alors...
Oui, normalement, on n'est même pas censé y penser. Quoi. Donc, et Django revoit Nicole, c'est plutôt mignon.
Ah, c'est mignon, ça, j'avoue que ça a beau être numérique dégueulasse.
Ouais, c'est mignon.
C'est un peu cucu, moi, je trouve, mais oui.
Et fin du film, on a une petite scène post-credits quand même, cette fois, je vais regarder.
Tu l'as pas loupé.
Il y en a deux.
Il n'y en a qu'une seule.
Non, il y en a qu'une avec Black Manta. Black Manta qui récupère son truc et tout.
Avec Kim Woon-jin, avec Kim Woon-jin.
Oui.
C'est l'acteur qui joue dans The Interview, qui joue.
C'est ça.
Ouais, un très bon acteur lui.
Ouais, qui joue Kim Jong-un.
Très drôle comme mec.
Ouais, bah
dans Fresh Off the Boat aussi. C'est
il jouait dans Ant-Man and the Wasp aussi, je crois.
Oui, c'est ça aussi. Et donc ouais, on voit juste pour préparer la suite, quoi, dire voilà. Je sais pas qui est le personnage exactement. J'ai pas fait de recherche. Ça doit être un des grands méchants, j'imagine, d'Aquaman. Mais...
Stephen Sin, il s'appelle.
Ouais, j'ai pas dans les bonus, ils en parlent pas. Donc écoutez.
Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit film ?
Vas-y, Zoltan, régale-nous.
Ah bah moi, c'est clairement mon film du DC préféré. Je veux dire, il y a Patrick Echouillem qui a fait une vidéo là-dessus récemment sur les Gonzo blockbusters, ce qu'il appelle. C'est les blockbusters qui sont clairement faillibles en termes d'histoire, de personnages, enfin de voilà, de d'aspects vers lesquels les autres films sont souvent plus solides, mais qui sont totalement barrés, généreux, en roue libre, et qui te proposent visuellement des trucs improbables à chaque plan. Et au final, moi, je sais que c'est grandement pour ça que c'est ma catégorie de blockbuster que je préfère. Je veux dire, je préfère largement me prendre un Aquaman de 2h20 dans la gueule, parce qu'il ne dure que 2h20, malgré le fait que ce soit une trilogie de 6h, dans la gueule avec cette exploration de plusieurs univers, des créatures dans tous les sens, des véhicules pour chaque armée différente. Je veux dire, les hommes poissons, ils ont leurs propres vaisseaux spatiaux, aquatiques. Les Atlants, ils ont leurs propres vaisseaux. Les autres, ils sont sur des animaux. Enfin, c'est dantesque, ça va dans tous les sens. C'est magnifiquement moche et à la fois généreux. Et je préfère avoir un film archétypal en termes de scénario, mais qui m'en met plein la gueule, qu'un film qui va dire être peut-être un peu plus concis ou solide, ou en tout cas ramassé, mais qui est justement qui se retient et qui m'offre pas grand-chose visuellement, et c'est pour ça que j'aime ce film énormément.
Je dis non, Zoltan, non.
Mais ça ne m'étonnerait pas de vous, monsieur.
Écoutez-moi bien, j'ai aimé ce film. Voilà. non, c'est vrai, j'ai aimé ce film plus que la première fois que je l'ai vu. Parce que la première fois, j'étais un peu en mode, je crois que j'étais peut-être fatigué aussi ce jour-là. Tu sais, des fois, tu vas voir des films.
Faut être en forme, hein, par
contre. Ouais, quand tu t'en prends plein la gueule comme ça, t'es un peu.
Mais en fait, t'en as plus l'habitude.
Et oui, en effet, j'avais l'impression que le film durait bien plus longtemps. Hein, quand j'ai appris qu'il ne durait pas 2h50, je suis tombé de haut. Parce que pour moi, c'était 2h50 obligé. Et j'ai bien aimé, les deux acteurs principaux ont bien porté le truc, toute la mythologie était bien, il y a des petits problèmes de ton, il y a des petits problèmes de scénario, mais franchement, quand on voit tout ce qu'on s'est fait dernièrement, ça fait plaisir. Hein. Enfin, c'est comme Wonder Woman, tu vois, c'est genre, ça fait plaisir quand même, un film sympa où on entend des trucs.
Mais c'est voilà, cool. Mais je trouve que toi, Wonder Woman, il a cette qualité d'être un film qui est très bien fait, qui est très assez classique dans le côté super-héros, c'est un film classique très bien fait, et j'adore. Mais Aquaman, c'est un film qui juste, est pas forcément très bien fait, mais qui qui est tellement généreux que ça compense, quoi.
Ouais, et franchement, on sent vraiment la patte de l'auteur.
Bah ouais, ouais.
Et ça, c'est un truc, c'est un truc qu'on devrait quand même accepter au niveau de la Warner, c'est qu'ils gèrent bien, ils donnent quand même un sacré contrôle à leur réalisateur.
Pour
quand
le
même.
Coup, je tiens à le préciser, il y a quand même eu un basculement dans la prod et tout ça à partir du moment où James Wan débarque. James Wan, c'est un mec qui a énormément d'influence à Hollywood. Hein. C'est un mec qui est producteur, qui a énormément de pouvoir, hein, parce que tu vois, toute sa saga sur les Conjuring et tout, c'est une force de frappe assez vénère. Et bah le réalisateur de Shazam, par exemple, c'est un mec qui sera amené par James Wan. Donc on sent qu'après Justice League, Zack Snyder, qui avait la main mise sur son univers, enfin en tout cas qui avait une certaine forme d'emprise sur DC, a lâché l'affaire. Et maintenant, bah ils l'ont passé à quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est vrai que
tu vois que les films de Snyder, ça ressemble à des films de Snyder. Le film de Whedon Snyder, ça ressemble à un film de Whedon Snyder. Patty Jenkins, pareil, elle a fait son film. Suicide Squad, David Ayer, il dira le contraire, mais c'est un putain de film David Ayer. Hein. Je suis désolé, mais enfin ça crie Ayer, quoi. Et Shazam, faudra que je le revoie vraiment pour me refaire une idée, mais bah, je sais que je l'avais vachement apprécié. Moi, donc,
le réal a pas une énorme patte, hein, Shazam, mais ouais. C'est juste que en tout cas c'est un mec qui est clairement venu par James Wan parce qu'il avait réalisé Annabelle Origin avant et qu'il est venu au cinéma par un mec comme James Wan qui a été son producteur et le mec qui l'a fait venir aux États-Unis. Donc
bah, écoute, je préfère le côté.
Mais bah, c'est un bon
tu,
mec.
Comme tu dis le mot généreux et. Et tu sens que le mec, il aime le matériel qu'on lui a donné et il aime partager. Et c'est peut-être un truc que j'avais pourquoi Zachary et moi, on s'entend pas trop. C'est un peu parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu ses films pour moi.
Ouais.
Tu vois. Alors que là, j'ai vu quand même un mec qui a fait des films aussi pour faire kiffer les gens. Que ce film, il l'a fait aussi pour faire kiffer les gens, tu vois. Et ça, je respecte beaucoup. Donc, Aquaman va bien se placer quand on fera notre petit classement, je pense.
Et toi, Max, qui avais détesté Aquaman,
et Moi, je vous assure que ma séance de cinéma, c'était terrible. J'avais vraiment détesté du début à la fin. Et là, le revisionnage a vraiment fait du bien parce que dans un contexte plus calme et tout, c'est vrai qu'au niveau de l'héritage du comics et des racines, déjà, c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant ce qu'il a réussi à faire. Ce qui me manque, par contre, j'avoue, moi, c'est une musique plus grandiloquente, justement. Un truc qui serait vraiment allé à fond. Je trouve que la musique est un peu trop plate par rapport à ce qu'on a à l'image, des fois.
Je l'ai complètement oublié au bout d'un moment.
Ouais, mais c'est ça, en fait. Il y en a quasiment
même pas relevé. Ouais.
J'ai fait une Zoltan sur ce coup-là. Voilà.
Voilà. Vous savez ce que je vis à chaque film qui n'est pas parfaitement orchestré. Quoi.
Non, mais c'est que ça doit pas être un bon signe, quoi. Tu vois,
non. Si vous-même, vous l'en remarquez pas. Voilà.
Et c'est vrai qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais l'utilisation du monde sous-marin, ce qu'il a réussi à faire au final, c'est quand même assez cool, et même au niveau du bestiaire et tout, enfin tu t'attends pas à voir tout ça, et non, le deuxième visionnage a fait du bien. J'avoue que je suis quand même moins à fond que vous deux, enfin surtout que Zoltan, mais non, franchement, c'est une vraie belle redécouverte, on va
quand
dire.
Quand tu te dis que ce film fait 3 minutes de plus que Suicide Squad, c'est quand même, enfin tu te dis, il y a deux mondes, quoi, genre, entre les deux films. Quoi.
Ouais, mais Suicide Squad, il y a 4 scènes.
Ouais, mais ça dure 2h17, hein.
Ils marchent dans la rue, ils sont dans un hélicoptère et ensuite il y a la bagarre. Voilà.
Ouais, mais 2h17, hein.
C'est là que tu vois la différence d'envie et de faire un vrai divertissement. Pour le coup, j'aime pas trop utiliser cette expression, mais de faire un divertissement où t'en prends plein la tronche.
Bah, c'est un film d'aventure.
T'adhères ou pas, mais.
Non, mais les films d'aventure, c'est des films qu'on a plus vraiment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de films de super-héros, mais des films d'aventure. Qui sont là des films que tu vas qui vont te faire voyager avec des péripéties.
Il y aura Uncharted, ça va relancer tout ça, je pense.
C'est pas impossible.
Non, mais c'est un sous-genre du cinéma qu'on a plus vraiment. Et à la fois, je me rappelle, j'ai un pote qui est fan de films d'aventure.
C'est un de mes préférés, moi. C'est un de mes genres préférés.
Bah non, mais voilà, et qui a mis sur Twitter, vous avez quoi comme bon film d'aventure à me recommander? Et il n'y avait que des rocos de films, genre, voilà, pas c'est Indiana Jones, mais même. En fait, il n'y avait que des vieux films, parce que c'est un cinéma qu'on fait plus trop, alors que pourtant, c'est un cinéma qui est génial, quoi. Bah, tu vois, le film d'aventure, ça fait rêver tout le monde. C'est évidemment un genre ultra fédérateur.
Bah, Crocodile Dundee, quoi. Enfin,
bah ouais, mais ça.
Jack Burton et compagnie.
Ouais. Snow Drive. Ouais. Donc voilà, bah, Aquaman, au final, on est sorti plutôt content. Hein. Voilà. Sur le Patreon, nous avons fait un petit classement du MCU. Je ne sais pas si j'en avais parlé déjà depuis dans le podcast.
Je pense pas, hein.
On a fait une tier list.
Oui, on a fait une tier list de tous les films du MCU. Donc, c'est intéressant parce que Zoltan et Max n'ont pas forcément fait le MCU avec moi. vu qu'à l'époque c'était Océan et Doug. Et donc c'est assez intéressant d'avoir enfin leur avis et de voir que ça diverge pas mal. On a un peu tous des avis différents sur certains trucs. Bon, surtout alors, vous deux contre moi.
On se serait bien frité si on avait fait des épisodes ensemble.
on se frite rarement, hein, même quand on n'est pas du même avis. On est diplomate. Hein, on est.
Voilà. Enfin, en fait, tu nous braques avec un flingue à chaque épisode.
Exactement. Je mets Michel.
Voilà, c'est ça.
Il y a Michel qui vous regarde avec une batte de baseball et ouais.
Voilà, exactement.
Et ouais, donc c'est sympa. On a fait un peu classement de tous les films du MCU. Je vous laisse deviner ce qu'on a mis en bas et ce qu'on a mis en haut. Je pense que vous pourrez peut-être vous pourrez aussi vous faire votre propre petite liste. J'ai mis le lien. Tout est sur le Patreon. Patreon.com/plein séquence. Patreon.com/plein séquence. Ce qu'on va faire là bientôt, c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, puisque Zoltan. Pour le Patreon, ouais. Parce que Zoltan a enfin lu les comics. Donc, ouais. Donc on attendait ça pour pouvoir se lancer. Et moi, je l'ai, là, le film. Donc, je suis prêt. Je vais me le regarder sûrement demain. Donc, on pourra se faire ça quand vous êtes dispo.
Ouais.
Et on avait prévu de faire VandaVision assez rapidement, vu que c'était censé sortir quoi, dans deux semaines, un truc comme ça.
Ouais, c'est du coup.
Et ça a été repoussé au 15 janvier. Donc,
repoussé
au 15 janvier.
C'est juste un peu décalé, ouais.
Ouais, voilà. Donc, on le fera plus tard. Mais en tout cas, ouais, sur Patreon, on fera les épisodes sur VandaVision.
Putain, si le Covid repousse même les trucs cool. De VOD, on est dans la merde. Hein.
Ouais. Et la boutique était là, se fermait jusqu'à nouvel ordre. Je suis en train d'essayer de régler ça et d'espérer qu'un jour on puisse la rouvrir parce que c'était cool de pouvoir voir les goodies et tout.
Bah ouais, j'ai pas pu acheter le slip alors je suis un peu dégoûté. J'ai
acheté le slip Michel.
Non, je voulais avoir le slip Lynch Planning avec la tête de Lynch au niveau du
Et donc, dans le prochain épisode, on va vous parler de Shazam, le dernier film du DCEU, le dernier film en date, puisqu'on a déjà fait Harley Quinn ensemble avec Maxime. Donc voilà, on finit Shazam. Et après, est-ce qu'on fait un épisode sur l'animation de Justice League ?
Bah, faudrait rappeler Ambre. Que je pense que
ah ouais, ça l'intéresserait aussi. Carrément, je lui enverrai un message.
Bah oui, écoute, si on peut, moi je peux en rattraper quelques-uns. Ouais,
ouais. Bon, on voit ça. En tout cas, bon, le prochain épisode des Shazam, et ensuite on verra. Parce que on va faire Blade, comme on avait dit. C'était ça.
Ouais, allez, faisons Blade pendant qu'on est confiné. Ouais.
On va faire Blade, ouais.
Ouais, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que le son était bon sur Zoom, mais en tout cas, enregistré, encore une fois, c'était très agréable.
Ouais, c'est clair.
Je remercie donc les Patreons de nous permettre d'avoir un abonnement Zoom qui nous permet
d'enregistrer dans de très bonnes, circonstances.
On a l'impression de pouvoir se couper sans trop perturber l'audio, ce qui, en termes de enregistrement à distance, est rare. Et là, il y a un confort qui est vraiment très, très bon.
Mmh. Ouais, ouais. Je pense que ton micro est un peu plus bas que les autres, donc je vais avoir du boulot. Mais sinon,
oh merde, putain, décidément,
j'ai pas l'impression. Moi.
T'as pas l'impression ? Ok, parce que moi, ça me fait ça, donc
okay.
J'espère que ça va aller. Bon, au pire, ça me fait un peu plus de boulot que d'habitude. Combien de temps elle a duré l'épisode, là ? Je sais même
pas. 1h40.
Ah, bah, ça va.
Oh, on est très court pour une fois. Ouais. Mais écoute, un film qui est si généreux, on peut pas lui rendre hommage.
On fait plus long en vrai, j'ai l'impression. On fait plus long
sur les films les moins intéressants.
c'est ça.
Un peu malheureux,
sur cette petite note, à la semaine prochaine tout le monde pour Shazam.
Shazam.
Salut tout le monde.